Le truc qui me passionne, c'est de réfléchir à comment retranscrire de la musique enregistrée sur scène. Donc c'est toute la chaîne de réflexion qui va nous amener à faire la V1 d'un spectacle et puis à la faire évoluer ensuite.
Tes tournées Zénith, tu les montes, tes plannings Zénith, ils sont montés. Moi, certains, sur de 28, c'est déjà presque monté, par exemple.
Ah ouais. Vous êtes déjà des zéniths calés en 2028 dans deux ans. Exemple, ouais.
Et à un moment donné, il y a une responsabilité de l'artiste sur un choix de scénographie. Bah ouais, ta scéno, est-ce qu'elle tient dans la remorque du bus ou est-ce qu'il faut deux semi-remorques à côté? Parce que si elle tient dans les deux semi-remorques à côté, j'ai pas besoin de te faire un dessin sur l'impact environnemental de ta tournée.
Un enseignement que j'ai tiré, c'était il y a longtemps, on a signé un artiste qu'on n'avait pas vu sur scène. Et en fait, je me suis promis, ça serait plus le cas.
Monte le son, c'est le podcast des passionnés de musique. Bienvenue à tous, ça va Daz?
Ça va et toi Salman?
Écoute, ça va très bien, je suis content parce qu'on va explorer un nouvel univers professionnel dans cet épisode Daz.
Alors,
un
nouvel univers mais qu'on aborde assez régulièrement mais...
Qu'on effleure,
tu vois.
Exactement, ouais. C'est-à-dire qu'on va parler de tournées, de concerts, tu vois, comment on organise ça, qui s'en occupe, etc. Évidemment ça revient souvent dans nos discussions, mais jamais on s'est vraiment penché durant tout un épisode Daz
sur ce métier de l'ombre.
Ouais, absolument. Les tourneurs, comment on organise des tournées, etc. On parlera des salles aussi, parce que évidemment, tu vois, ça rentre dans l'équation. Des propriétaires de salles, des majors, des indépendants, et plus globalement de l'aspect économique du spectacle vivant.
Business.
Exactement. Business. Genre, tu vois, je suis sûr des gros mastodontes, genre Live Nation, ça te parle?
Oh oui.
Tu vois? Mais il n'y a pas que ça, en fait. On connaît souvent les gros, et il y a plein d'autres façons de travailler. Et on va discuter justement de tout ça.
Mais alors, avec qui?
Mais oui, on a deux super invités pour ça. On est avec Alice Pourchet.
Bonjour.
Ça va Alice?
Ça va, stressée, mais ça
ouais,
va.
Oui, tout va bien se passer.
Comme ça, c'est dit.
Exactement.
Bienvenue.
Et on est aussi avec Simon Audet. Bonjour Simon.
Salut.
Je vais les présenter rapidement.
D'abord. Allez.
Parce qu'on a de la chance parce qu'ils sont vraiment dans le cœur du sujet. Mm-hmm. Puisque Alice, toi, tu es directrice booking chez Caramba Culture Live. C'est bien ça?
Ouais, c'est exactement ça. Exactement.
Parce que le Culture Live, est pas, historiquement, n'est pas là. Mais
Caramba, il est arrivé un peu plus tard, effectivement.
Ouais, ouais. Caramba, en fait, c'est une boîte de production de concerts, d'organisation de tournées, etc. Vous existez depuis le début des années 2000.
On a fêté nos 25 ans.
Ouais.
Exactement.
Ouais, pas mal.
Pas mal.
C'est Caramba à 25 ans, et après, Luc Gorichon qui a créé la structure, a été promoteur local, a eu d'autres structures en amont. Mais voilà, on va dire Caramba en tant qu'entité, c'est 25 ans.
Ouais, Luc, effectivement, qui est à l'origine de la boîte, c'est quelqu'un d'ancien dans le milieu, qui a eu une expérience folle. D'ailleurs, peut-être qu'un jour, on parlera avec lui. On verra si ça se fait.
Ah, carrément, on aurait plein de choses à vous dire.
J'imagine. Et Caramba, historiquement, c'était plutôt orienté au niveau esthétique, jazz, musique du monde, si je ne dis pas de bêtises, mais
au
ça s'est ouvert, ouais.
Ouais, effectivement, au démarrage, c'était plutôt l'appétence de Luc, hein, qui était plutôt world jazz. C'est aussi ce qu'il a formé au démarrage, notamment quand il faisait des concerts à Niort. Ouais. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est ouvert parce que. Des rencontres, des propositions. Il a travaillé avec Bachung, notamment avec Christophe, et j'en passe et des meilleurs. Donc effectivement, ça s'est ouvert sur la chanson, notamment.
Et vos activités aujourd'hui, évidemment la boîte a évolué en 25 ans, elle est divisée en trois pôles, qui sont musique, spectacle, events. Ouais. Ce qui veut dire qu'en fait, vous pouvez aussi bien travailler avec des artistes musicaux, évidemment. Je pense à Asfar Chamsi, Ben PLG, Ben Mazué, Véronique Sanson, Infinite, Makala, Kezia Jones, Lucie Antounès. On voit vraiment là la diversité des esthétiques. Ouais. Mais aussi, ça peut être avec des gens du cirque, par exemple, pour la partie spectacle, avec des conférenciers, des trucs autour du développement personnel, ou même directement avec des marques. Ça, c'est le côté events. C'est-à-dire que, je sais que ça vous est arrivé, si je dis pas de bêtises, Airbus vous dit, nous, on aimerait pour une soirée avoir un artiste, etc. Et vous essayez d'organiser ça pour eux.
Ouais, exactement. C'est, par exemple, pour Airbus, c'est des appels à projets. Donc, on est, je pense, plusieurs du secteur à être sollicités. Et puis après, il y a un cahier des charges à remplir. Et donc, on a déjà effectivement travaillé avec Airbus pour organiser des concerts en interne. Ce qu'on appelle des concerts privés.
Très bien.
On demandera après quel est le pôle le plus lucratif.
Mais j'ai la petite idée déjà. De toute façon, évidemment, on va rentrer dans les détails. Je présente aussi Simon quand même.
Bien sûr.
Quand même.
Simon, toi aussi, tu as été booker comme Alice pendant des années, mais aujourd'hui, vraiment, tu gères carrément une structure puisque depuis 11 ans, tu es le directeur de W Spectacle et de W Live. Qui sont en fait les divisions booking, donc production de concerts, de spectacles du groupe Wagram Stories. Votre particularité, justement, c'est d'être intégré à un groupe. Ça veut dire qu'il y a le label Wagram, évidemment, et puis de l'édition, un tourneur, et tout ça est vraiment pensé ensemble. Vous essayez de proposer une espèce d'écosystème aux artistes avec qui vous travaillez. Ça ne veut pas dire que c'est exclusivement, par exemple, des artistes signés en label Wagram qui sont chez W Spectacle pour les tournées, mais globalement, quand même, vous pouvez proposer différents services.
Mais est-ce que dans l'autre sens, ouais, ça marche ? Est-ce qu'un artiste qui est signé chez Wagram, il a le droit d'aller ailleurs pour...
Ouais. Ouais. Tous les cas de figure existent. Il n'y a pas de schéma verrouillé.
Ouais. Et ben pour citer quelques-unes de vos grosses collaborations, récemment il y a eu Pierre Demar par exemple, Solane, Suzanne, Bertrand Belin, Tiken Jaffa-Coli, Olafur Arnalds, Julien Granel, Bigaranx. Tu sais qu'on a tellement envie de l'avoir dans cette émission.
Un jour.
Je ne sais pas si tu peux nous aider. Si
je vais voir ce que je peux faire.
ou notre ami Miel de Montagne aussi, qu'on a reçu dans l'émission, qui travaille avec W Spectacle. Bon, y en a plein d'autres. Ça, c'est pour la musique, puisque en fait, comme Caramba, vous avez plusieurs activités, et avec évidemment l'aspect 360, c'est-à-dire d'avoir le label Wagram, l'édition, etc. C'est encore plus poussé chez vous parce que vous avez donc ces activités spectacles, spécifiquement comédie même. J'étais étonné. Vous êtes vraiment avec des humoristes. Je vois Marine Bausson, Oldelaf, Virginie Fortin. Il y a vraiment cette idée de travailler d'autres choses que la musique.
Oldelaf, c'est de la musique aussi.
Ouais, mais c'est entre les deux, tu vois. Il y a aussi le côté... En tout cas, il est classé plutôt le côté comédie sur leur site, par exemple. Tu vois.
Ouais, c'est protéiforme, on va dire. Après, le cœur de notre ADN, ça reste quand même la musique.
Ouais.
Et les musiques actuelles, on a un roster qui est super éclectique. Je dirais sur deux niveaux. Éclectique au niveau des styles de musique. On va autant faire des artistes qui font du rock, de l'électro, de la chanson, du reggae, des musiques du monde, du néoclassique, du jazz. Enfin, on est vraiment archi ouvert sur les esthétiques. Et éclectique aussi au niveau des tailles de développement d'artistes. Il y a des artistes qui, au moment où on les signe, n'existent pas du tout en termes de notoriété. Il y a tout à construire. Tu vois, je me rappelle quand on a signé Suzanne, par exemple, en 2017, elle avait peut-être 80 fans Instagram. Donc oui, là, c'est vraiment ce qu'on appelle signer un projet au moment où il n'existe pas du tout en termes de notoriété. Et il y a aussi des artistes qui, au moment où on les signe, ont déjà eu une vie avant de nous connaître, ont déjà sorti des albums, ont déjà fait des tournées. Donc ça, c'est un peu les deux exemples extrêmes, et puis avec toutes les nuances que vous pouvez trouver entre les deux.
Bien sûr.
Mais c'est vrai qu'au fil du temps, je pense qu'on a cultivé un savoir-faire qui est reconnu en tant qu'opérateur spécialiste du développement d'artistes. Voilà. Après, moi, je considère qu'un artiste, il est éternellement en développement.
Je trouve ça intéressant comme dynamique. Effectivement, je suis d'accord avec toi.
Je pense que l'artiste, il ou elle, va remettre une partie de son titre en jeu à chaque album. Donc il faut surtout pas se reposer, je pense, sur ses lauriers, même si évidemment le point de départ d'une nouvelle tournée ne dépend pas que du nouvel album, parce que si c'est un artiste qui a su fédérer une audience au cours de ses tournées précédentes en proposant une qualité de spectacle avérée, je pense que c'est un ou une artiste qui a su fidéliser du public. Donc le succès d'une nouvelle tournée ne dépend pas que du succès éventuel d'un nouvel album, mais on sent bien quand même que ça va impacter quand même certaines dynamiques, quoi. Donc
la proposition scénographique artistique aujourd'hui, elle est quand même extrêmement importante aussi par rapport à ce que tu disais. Effectivement, c'est pas que l'album, puisque souvent les artistes ont une carrière un peu longue et ils vont insérer 4-5 titres dans le nouveau concert, dans le nouveau projet. Mais c'est un peu l'expérience publique, le rapport qu'il ou elle a avec la scène et la proposition. Musical, les réarrangements aussi de certains titres que le public peut connaître par cœur, et comment effectivement tu te renouvelles en tant qu'artiste à chaque fois que tu montes sur scène, en fait.
C'est intéressant parce que tu intègres, évidemment on va le développer, mais il n'y a pas qu'une partie logistique entre guillemets dans votre travail, mais aussi une partie plus créative, d'accompagnement scénographique, etc. Peut-être pour commencer un peu.
Ouais, défrichons,
les bases.
La sémantique, je te laisse y aller.
Déjà, avant peut-être même la sémantique, quand vous rencontrez quelqu'un qui n'est pas dans l'univers de la musique, dans votre famille, j'en sais rien, un ami, une soirée, etc., on vous demande c'est quoi votre métier, comment vous le résumez en quelques mots, c'est quoi un peu pour qu'on capte le cœur vraiment de votre travail ?
Moi, je dirais que c'est, si on doit être très synthétique dans la réponse et succinct, je dirais que c'est deux choses. C'est un, fabriquer des spectacles et deux, les diffuser.
Ok.
Voilà. Et après, on peut développer. Mais si j'ai que deux trucs à répondre très rapidement, ça va être ça.
Alice, tu, ça
ouais, te... moi, ce que je dis, c'est que je monte des tournées pour des artistes. Je dis que voilà, en France, il y a beaucoup de salles et de festivals et que je fais en sorte que les artistes avec qui je travaille passent dans ces villes-là et dans ces salles-là. Okay. Voilà, mais je ne suis même pas certaine que tout le monde comprenne.
Et alors, mais justement, si tu parlais de sémantique, il y a le côté, donc, on parle parfois de tourneur, de booker, on pourrait rajouter producteur. Est-ce que ça veut dire la même chose, ces trois mots? C'est... Oh là, Simon, il fait non de la tête et en même temps, c'est compliqué, j'ai l'impression.
Ouais, en fait, à partir du moment où la structure, pour rester vraiment très générique, va financer les coûts de création d'un spectacle et ensuite se charger de mettre en place cette tournée, comme le disait Alice, dans les salles, les festivals, etc., pour moi, c'est ce que j'appelle être producteur de spectacle.
Ok. Voilà. Parce qu'on met l'argent.
Ouais, on a produit au sens entre guillemets noble du terme le volet live de l'artiste.
Maintenant, disons qu'il y a un pari en fait dans la production.
Ouais, complètement. Mais il y a aussi des structures qui vont être que agents. Donc, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas participer au financement de la création du spectacle, ni même à la réflexion, ni même à rien du tout. Elles héritent d'un spectacle clé en main qui est déjà fait et dont elles vont diffuser le spectacle en France ou à l'international.
Alors ça, c'est qui ça?
Oui, c'est un terme précis.
Ça, c'est plutôt des agents, pour le coup.
Okay.
Voilà. Pour moi, les agents ne financent pas la création d'un spectacle, mais ils s'occupent de le diffuser, de le booker en festival, de le booker en salle. Mais souvent... ils peuvent être amenés à produire certains concerts. Et donc, produire certains concerts, c'est ce qu'on fait dans la plupart des cas à Paris, mais aussi parfois en province, en région, à partir d'une certaine taille. On va produire, c'est-à-dire nous allons nous mettre dans la peau de l'organisateur du concert. C'est nous qui allons louer la salle, financer tous les coûts afférents à l'organisation du concert, et c'est nous-mêmes qui allons gérer la billetterie. C'est-à-dire qu'on ne cède pas le spectacle à un tiers. Voilà. C'est un peu il y a deux catégories de dates en fait. T'as les dates, ce qu'on appelle les dates en session. Donc c'est quand on vend un artiste à une salle ou un festival, on cède un spectacle. Ou des dates en production, quand c'est nous-mêmes qui allons produire la salle. Ça peut être un Zénith, un Olympia, une Cigale, tout ça quoi.
D'accord. Donc il y a le moment où la salle fait appel à l'artiste. Là c'est de la session. Par contre, si c'est vous qui demandez à la salle de produire, enfin de oui, pour que l'artiste se produise dans cette salle-là spécifiquement, là, on est en prod.
Ouais. À partir du moment où, en fait, tu loues l'espace, la salle, comme tu disais, que ce soit une salle parisienne ou Zénith en région, c'est de la production. À partir du moment où c'est, par exemple, le tissu en France, c'est vraiment beaucoup de théâtres, de centres culturels, de théâtres municipaux. Et donc, la plupart du temps, dans ces lieux-là, on fait partie d'une programmation culturelle. Donc, il y a de la musique, du théâtre, de la danse, du cirque, du jeune public. Et donc, c'est de la session.
D'accord.
Il y a cette dimension aussi public-privé qui rentre en compte dans la façon dont on va travailler avec les salles, etc.
D'accord. Et alors j'imagine qu'on va l'aborder après, mais quel est votre impact sur la proposition artistique de l'artiste? Est-ce que vous êtes là pour les répètes, par exemple? Est-ce que vous arrivez en disant ouais, ça serait mieux de le faire comme ça, plus de musiciens? Il devrait plutôt le faire comme ça. Enfin, parce que l'artiste, lui, il en demande, du coup, quand il débute, surtout.
Moi, je pense que c'est super variable entre les producteurs de spectacles, déjà. Et c'est super variable en fonction des artistes. Le truc qui me passionne, c'est de réfléchir à comment retranscrire de la musique enregistrée sur scène. Donc, c'est toute la chaîne de réflexion qui va nous amener à faire la V1 d'un spectacle et puis à la faire évoluer ensuite. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, nous, en tout cas chez W Spectacle, on s'efforce de ne pas appliquer de recettes. C'est-à-dire, je pense que chaque artiste est différent. Il y a des artistes qui savent exactement ce qu'ils veulent, qui ont une idée très très précise de ce à quoi doit ressembler leur concert. Et, extrême opposé, il y a des artistes qui ont besoin d'être accompagnés sur tout. C'est-à-dire comment ils vont s'habiller, qu'on leur trouve des musiciens, qu'on constitue une équipe technique.
Ça peut être votre rôle.
On leur propose, notre rôle. Ouais. De leur proposer des scénographes, des profs de chant, des posturologues, des coachs scéniques. tout ce qui constitue les corps de métier et qui permettent de fabriquer un spectacle.
Parce qu'on a compris la différence entre producteur et agent. On a compris qu'il pouvait y avoir de la production, de la session, en fonction aussi de l'identité des salles, de leur façon de travailler, est-ce que c'est du public, du privé, etc. On n'a pas trop... On ne s'est pas arrêté sur booker, tourneur. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose de différent encore du côté production, agent?
En fait, booker, c'est un métier qui est partie intégrante d'une structure de production. Et donc, c'est la personne qui va être en charge de trouver des dates de concert, notamment, qui va accompagner l'artiste sur ses envies, qui va effectivement être un peu le partenaire de réflexion, de savoir si quel scénographe tu proposes, effectivement, comme disait Simon tout à l'heure, quel type de coach vocal. Enfin voilà, il va faire partie de la réflexion globale de la structuration et de la création du live.
Donc en fait, tu as une boîte de production de spectacle, et au sein de cette boîte de production de spectacle, il y a des bookers qui vont être un peu plus sur l'aspect opérationnel, d'accompagnement au quotidien, etc. C'est ça, si je comprends bien.
Et après, selon les structures de production, le rôle de booker ou des personnes à la production est assez peut se croiser. Il y a des bookers qui ne vont pas avoir cette appétence, donc ça va être vraiment des personnes qui vont monter les dates, et ça va plutôt être des personnes soit à la production notamment qui vont accompagner sur toutes ces réflexions, et puis il y a des bookers qui ont vraiment cette envie et qui sont dans ces réflexions de construction de live.
Enfin, c'est ce métier-là, si principalement en plus si il est mobilisé au tout début, en fait, il va peut-être se télescoper avec le management de l'artiste aussi, ou non? Chacun reste... Il n'y a pas de conflit de...
Non, normalement, c'est des fonctions complémentaires. Enfin, c'est-à-dire que booker, c'est une fonction au sein d'un tourneur. Tourneur, c'est la structure. Donc, est-ce que c'est un producteur de spectacle? Est-ce que ce tourneur, c'est qu'un agent? Ça, c'est d'autres questions. Mais booker, pour moi, c'est une fonction parmi d'autres au sein d'une équipe que tu vas retrouver chez un producteur de spectacle. Par exemple, chez nous, il y a 4 pôles. Il y a le pôle booking, où il y a toutes les bookeuses et les bookers. Il y a le pôle production, où tu as toutes les chargées de production. Je dis toutes parce que j'ai que des femmes chez W Spectacle. Tu vas avoir toutes les chargées de communication dans le pôle communication. Et tu vas avoir toutes les administratrices de prod au pôle administratif, quoi, en gros.
Qui coordonne ces...
Alors, c'est pareil, il y a autant de producteurs de spectacle que de façons de faire.
Chez nous,
le booker ou la bookeuse, c'est la véritable chef de projet. D'accord. C'est le chef de projet. Donc, c'est lui qui coordonne. C'est-à-dire, moi, par exemple, quand je signe un artiste, je constitue une équipe de 4 personnes autour de l'artiste, une équipe resserrée, avec le ou la chef de projet booking, donc aussi appelé bookeuse ou booker, la chargée de production, la chargée de communication et la chargée d'administration. En gros, voilà. C'est les 4 métiers au quotidien qui vont accompagner un ou une artiste au cours d'une tournée.
Toi, Alice,
on est structuré exactement de la même manière.
Ah ouais. Parce que toi, t'es directrice du booking. Ouais. Directrice booking. Ouais. Ça signifie que t'as des bookers aussi qui sont à tes côtés pour t'épauler, et toi, tu regardes un peu ce qu'ils font. Enfin, c'est...
Ouais, en fait, on travaille vraiment ensemble. Nous, c'est structuré de la même manière. C'est-à-dire que le pôle booking, chaque bookeuse et booker est chef de projet. Et après, on réfléchit ensemble aux stratégies. Et puis, on est là en support s'il y a des questions.
Toi, en tant que directrice, tu veux dire que t'es là en support
exactement.
Pour les
trucs. Okay. Exactement.
Mais du coup, donc si. Au sein de vos
et
structures.
Nous, en plus, je crois, par rapport au pôle, nous, on a un pôle billetterie. Mais je ne sais pas si vous avez...
Oui, moi, il est dans la communication, mais...
Ok, ouais, nous, c'est 2 pôles distincts.
Ouais. Ah ouais, donc il y a la billetterie qui rentre aussi. Dans... C'est hyper, hyper complet, en fait, vos métiers.
Ouais, c'est pour ça que c'est passionnant.
Que tu produis.
Ouais.
mais du coup, donc vous avez, au sein des équipes, un ou une chargée de com pour l'artiste. Mais l'artiste, lui, il a déjà aussi, parfois, il est déjà entouré, il a déjà son...
Rarement, en fait, hein, final. Après, c'est parfois des community managers pour les réseaux, mais c'est pas la communication. Et puis après, ils ont des attachés de presse, etc. Mais enfin, à ma connaissance, j'ai pas l'impression qu'il y ait de personnes...
Nous, ça va être la communication dédiée au live.
Oui, voilà, mais tu vois
l'artiste, il va avoir quelqu'un qui s'occupe de la communication dédiée à tout ce qui est label dans son label. Mm-hmm. Il peut avoir un management qui va l'accompagner sur plein de choses, un ou une community manager, manageuse aussi. Mais nous, on a quand même la responsabilité...
De remplir les salles.
Et l'intérêt, de s'assurer que tout ce qui relève de la communication en ce qui concerne les tournées soit bien réalisées et aussi en cohérence avec le projet de l'artiste.
Oui, voilà, c'est ça que j'allais dire, voilà. C'est qu'il faut quand même que cette communication, elle s'inscrive dans la DA de l'artiste aussi.
Une fois de plus, on n'applique pas de recette, quoi. C'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de respecter le ton de l'artiste, sa DA, etc. Aujourd'hui, je pense que un ou une artiste, s'il veut être efficace auprès de son audience, il faut que ça soit un exercice de sincérité. Si on sent que c'est un message préfabriqué par son label ou par son producteur de spectacle, ça va tout de suite faire moins d'écho, moins de vues, moins de partage, moins de tout ça. Les gens sont en recherche d'authenticité aussi, donc il faut super respecter l'artiste. Ça nécessite d'en discuter, de challenger la discussion, d'essayer d'aboutir à des idées qui apportent de la valeur ajoutée aussi sur ça, quoi.
Bah sur ce rapport artiste, justement, on peut peut-être élaborer un peu autour de ça. Là, on parle vraiment des activités, donc production, booking, musique, vraiment. Après, on parlera de plus de tout ce qui est diversification, 360, etc. Mais un truc hyper basique, peut-être Alice, tu peux commencer, Simon, tu compléteras. Qui peut faire appel à un tourneur, entre guillemets, une boîte de production de spectacle? C'est les artistes directement? C'est les entourages? C'est à différentes échelles? Il parlait de Suzanne tout à l'heure qui avait quasiment personne qui la suivait sur les réseaux, etc. Je suis un tout petit artiste, je peux contacter directement le tourneur? Comment ça se passe?
Tu peux effectivement contacter. En fait, il y a plusieurs, on va dire, il y a plusieurs canaux. Il y a les artistes en direct qui nous contactent de manière régulière tous les jours. Je pense que toutes les structures reçoivent des mails en disant bonjour, je m'appelle comme ça, j'ai tel projet, voilà ce que je fais, je fais une petite date à tel endroit. Donc voilà, il y a vraiment les artistes en direct. Après, il y a les managers qui peuvent nous contacter. Puis après, c'est du réseau, c'est des relations, des managers ou managers avec qui on a plus l'habitude de travailler, qui vont soit avoir repéré tel artiste qui n'a pas de tourneur, pas de producteur. Ça peut être des tremplins. Il y a pas mal de tremplins. Par exemple, les Inuits, ça peut faire partie des sources.
C'est-à-dire que c'est vous qui allez aux Inuits et vous repérez les artistes pour les approcher ou c'est...
Oui, et puis ça peut être également des artistes qui sont sélectionnés, qui n'ont pas de producteur et qui nous sollicitent également. Enfin, ça peut aller dans les deux sens. Et après, il y a effectivement aussi les labels qui peuvent être en sourcing et donc en proposition. Après, je pense que pour le coup, c'est une partie que Simon pourra plus développer puisque vous êtes vraiment en lien avec différents labels. Donc nous, notre fonctionnement est un peu différent par rapport à ce canot, en tout cas.
Ouais, Simon, qu'est-ce qu'il y a, toi, de différent, ta façon de travailler par rapport à Caramba et Alice?
Plein de points communs, parce que par rapport à ce que dit Alice, effectivement, tous les chemins mènent à Rome. Il n'y a pas qu'une seule façon de créer la rencontre qui amène ensuite à une signature. C'est vrai qu'il y a des artistes qui nous contactent en direct, il y a des professionnels de la profession, de l'écosystème de la musique aujourd'hui en France, des éditeurs, des labels, des managers qui peuvent aussi nous proposer des projets. Il y a des artistes qu'on va repérer aussi en première partie, sur SoundCloud. Il y a un truc qui est marrant, c'est que chez les labels, il y a une vraie fonction qui s'appelle DA. Chez les producteurs de spectacles, c'est assez rare d'avoir quelqu'un payé que pour faire de la DA. Voilà. Donc, on est tous un peu DA aussi.
Fait tous du sourcing, en fait.
Tu vas au bureau après avoir fait un concert hier soir, tu dis « Ah, les gars, j'ai revu un truc trop bien, peut-être qu'on check un peu si c'est... » Ça se passe comme ça.
Ouais. Mais tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple. On développe une artiste qui s'appelle Théa.
Ouais,
et Théa, c'était notre chargée de communication chez W Spectacle, l'a vu en concert il y a longtemps et qui m'a écrit le lendemain matin en me disant ouais, tu sais, je sors un peu de mon rôle mais je voudrais te parler d'un projet. Je lui ai dit, sors de ton rôle, c'est très bien. Donc tu vois, c'est tout le monde est un peu aux aguets et connecté. Ensuite, chez nous, c'est vrai qu'on de par notre modèle, on a la moitié de nos artistes qui sont signés parmi un des labels de Wagram, parce qu'il y a tout un tas de labels chez Wagram, ils ont leur ligne éditoriale propre, et c'est vrai qu'ils nous proposent régulièrement des projets, et c'est génial. C'est génial de pouvoir s'appuyer sur leur expertise, sur leur capacité aussi à sourcer des projets que nous, on n'a pas non plus le temps de chercher, parce qu'on est quand même hyper occupé avec les projets avec lesquels on bosse.
C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'on parle de cette histoire d'échelle. Vous nous dites que c'est pas tant un frein le fait d'être un artiste en développement, qui n'a pas encore une grande communication, etc. Toujours est-il que vous êtes tellement sollicité qu'il faut bien faire le tri. J'imagine. Ouais, est-ce que vraiment un artiste qui vous envoie un mail comme ça, il est assuré d'être lu d'une part et est-ce que quand même globalement vous faites un tel trick, c'est honnêtement un peu difficile ou, enfin, comment ça se passe?
Bah, nous, on refuse beaucoup plus que.
Ouais, bien sûr. Enfin, mais comme tout producteur, je pense effectivement. Et puis après, effectivement, nous, on essaie. Je dis bien, on essaie. On tend vers. Et parfois, c'est très long de répondre à toute sollicitation. Ouais. Après, c'est hyper dur de s'y tenir parce qu'en fait, personne ne se rend compte du nombre de sollicitations qu'on peut avoir.
Ouais, en termes de volume.
Et après, il faut avoir le temps d'écouter. Après, il y a des choses où tu fais, voilà, des projets où tu vois tout de suite que quoi qu'il arrive, ça va pas être l'ADN, ça va pas être le type de projet qu'on peut rechercher. Donc on va y répondre gentiment. Et puis après, il y a tous les projets qu'il faut écouter. Nous, on est nombreux comme vous. On est collectif dans la décision. Donc parfois, effectivement, ça discute.
Il faut l'accord tout le monde globalement.
Non, pas l'accord, mais en tout cas. Que ça soit OK. Et qu'il y ait un booker, une bookeuse qui y croit vraiment, qui a envie de s'en emparer. Parce qu'en fait, c'est quand même le cœur de nos métiers, c'est vraiment d'y croire. Parce que je pense que sinon, on ne peut pas construire et accompagner un artiste intrinsèquement on ne croit pas au projet. Et c'est la force du bookeuse, de la bookeuse et du chef de projet, en fait. C'est d'être vraiment contre vents et marées. Parce qu'au démarrage, un artiste en développement, personne n'en veut, en fait, entre guillemets. Il faut s'armer de courage, de patience, de discours. Il faut que tout se coordonne comme il faut. Le titre qui va bien, la sortie, la visibilité, la promo, et que ça fasse un peu boule de neige. Parfois, il y a une reconnaissance du secteur avant la reconnaissance du public. Parfois, c'est l'inverse. Mais effectivement, c'est quand même beaucoup d'étoiles à aligner.
Simon, toi, tu te dis aussi parfois, ah putain, là, on risque de passer à côté d'un truc, peut-être, je sais pas, tu vois, d'une sollicitation.
Ouais, bah c'est y a des choix cornéliens à faire, et puis on est aussi dans le doute.
Parce que Théa, c'était un super coup, vous pouvez la remercier, votre.
Bien sûr.
Plus, quoi, qui chez vous avait trouvé.
Ouais, mais, Maxime, je lui fais un petit dédicace au passage. Ouais. Mais en fait. Moi, ma philosophie, la façon dont je vois les choses, le point de départ, c'est les chansons. C'est-à-dire, pour moi, c'est ça qui allume la mèche ou pas. Des fois, on me dit, ouais, il faut que tu ailles voir tel artiste sur scène, c'est mortel et tout. Mais en fait, moi, ça ne m'intéresse pas un artiste mortel sur scène. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les chansons.
Parce que ça se travaille plus facilement, la scène.
S'il y a des bonnes chansons, avec du travail et des équipes, t'en feras un bon concert. Un bon interprète, s'il n'y a pas de chansons, moi, personnellement, ça ne me touche pas. Et j'ai besoin, en tout cas, de signer des choses qui soient glacées ou brûlantes, où il y ait vraiment de la singularité et qui ne vont pas laisser les gens indifférents. Donc peut-être que les gens vont adorer ou détester.
Ça peut être presque paradoxal, parce que ton métier, c'est justement ensuite la production sur scène. Ouais. Mais pour autant...
Ouais, mais ce qui nous anime, c'est quand même des chansons. C'est ça, en fait. Alors évidemment, il y a tout ce qui va avec. Il y a l'artiste, son charisme, son histoire... au cours d'un premier rendez-vous, tu vois tout de suite si tu vas pouvoir bien t'entendre ou pas. Aussi, ça, c'est quand même important.
Oui, bien sûr.
Et puis, il y a aussi, quand tu es sollicité et que ça te questionne, que ça commence à aiguiser ta curiosité, moi, j'ai quasiment tout le temps le réflexe de faire écouter à mon équipe, au moins au booking. Oui. Et tu vois tout de suite, c'est déjà une première petite étude de marché, j'ai horreur de ce terme, mais tu vois tout de suite, en fait, si ça divise... S'il y a une adhésion générale, s'il y a un rejet collectif, tu vois, t'as déjà des premiers enseignements, en fait.
Ouais, c'est intéressant.
Et puis après, l'instinct, quoi. L'instinct, c'est quand même un bon logiciel, l'instinct. Des fois, on oublie, mais tu vois, c'est...
Sur l'instinct.
Après, ouais, c'est de se dire que si ça nous a plu, pourquoi ça plairait pas aux autres ? Enfin, y a vraiment ce côté-là. Et je suis d'accord avec toi par rapport à la chanson. On se dit tous et toutes ça, je pense, c'est une bonne chanson. C'est une chanson que tu peux faire en piano-voix ou guitare-voix. Mmh. Et c'est vraiment l'essence même d'un bon titre. Ensuite, il peut y avoir toutes les prods du monde. S'il y a une coupure de courant, peu importe que tu es sur une scène, c'est une bonne chanson, qu'il y a une guitare, en fait, ça peut jouer, quoi.
Ouais, et puis des fois, c'est limite, il faut même pas chercher à l'expliquer. c'est, tu vois, il y a un ressenti, ça crée une émotion chez les gens. C'est génial. Tu vois.
Après, j'entendais, parce que je consomme pas mal de podcasts dans le monde de la musique, hein, avec des discussions, un peu ce qu'on fait, hein, globalement. Je regarde la concurrence, quoi. Et j'entendais parfois des artistes, et pas les plus petits, expliquer par exemple que eux en live ce qu'ils veulent c'est le son du CD, alors que moi j'étais toujours parti en mode le live permet de transcender le support initial sur lequel on a fixé l'album et ça permet justement d'explorer des trucs. Et cet artiste là qui est quand même assez huge dans la chanson française, lui il disait non, moi ce que je veux c'est les gens ils viennent, ils ont écouté le CD à la maison. Ils viennent en concert, ils ont à minima cette qualité-là. J'en ai rien à foutre d'avoir des musiciens live, des machins, des trucs. Et je me dis, un artiste qui arrive comme ça pour vous voir et qui dit, alors moi par contre c'est simple, je veux que ça soit le son du CD et rien d'autre, comment est-ce que vous pouvez, vous, essayer de lui faire infléchir un petit peu sa décision, lui ouvrir une porte peut-être que lui n'a pas en tête parce que l'artiste en question avait l'air quand même super déterminé, tu vois. Et moi, en tant que consommateur de musique live, je me dis, bah non, l'intérêt c'est certes de retrouver ce que je connais, mais aussi...
Je pense qu'on a tous été déçus en tant que spectateur, spectatrice, d'aller voir un concert et de se dire, oh, j'aurais pu rester chez moi.
Écouter l'album, ouais.
C'est l'album, enfin, ouais. Ça fait partie des phrases un peu récurrentes, donc moi je pense que j'ouvrirais quand même une réflexion, une discussion autour de ce sujet. Moi je trouve ça un peu... personnellement, en tout cas, je trouve ça dommage de ne pas vouloir réfléchir à des réarrangements possibles et à dynamiser.
Moi, je pensais que tout le monde était plutôt comme ça, quoi, mais j'étais surpris parce que.
Ça dépend, je pense.
Ouais, après, c'est. Enfin, expérience perso, c'est assez rare, je pense, comme cas de figure.
D'accord.
Après, ça a l'avantage de. C'est un artiste qui sait ce qu'il veut, et ça c'est bien aussi, tu vois. S'il a une vision très précise de ce qu'il veut, c'est lui qui monte sur scène, c'est pas nous, hein. Donc à un moment donné on est aussi là pour l'accompagner, et peut-être un concert c'est pas que des sens audio, c'est aussi des sens visuels, donc tu vois, peut-être que ça va être très proche du son de son disque, mais qu'il va se passer des choses qui visuellement vont apporter une valeur ajoutée qui fait qu'au final ça va être super, tu vois. Moi j'ai pas de réaction négative. J'aurais pas de réaction négative à quelqu'un qui dirait, écoute, moi sur scène, je veux que le rendu soit très proche de mon disque. Franchement, c'est y a aucun problème.
Je crois que c'est un truc qui revient aussi dans nos discussions, dans cette émission, là, en l'occurrence, c'est que parfois des artistes veulent des trucs très produits. Effectivement, pas forcément reproduire le son du disque, mais dire, moi, je veux un truc très produit sur scène. Par contre, le nombre de cas où j'ai fait appel à un arrangeur spécifique pour le live, j'ai fait appel à un directeur artistique, directeur musical spécifiquement pour mon live, pour le travailler d'une manière différente, c'est quand même très 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 courant.
Mais dans ce cas-là, la question c'est, est-ce que c'est eux qui font appel ou est-ce que c'est les bookers qui
finalement... Est-ce que quelqu'un, un directeur musical par exemple sur une tournée, c'est vous qui allez l'apporter, c'est l'artiste qui l'a déjà de son côté, c'est comment ça se passe?
C'est ce que je disais tout à l'heure parmi la liste de tous les métiers possibles. Si l'artiste n'a pas déjà un directeur musical avec qui il s'entend bien, il ou elle s'entend bien, c'est à nous d'en proposer. Et on a tout un pool de directeurs musicaux avec qui on bosse, tu vois.
Et puis on sait que tel directeur musical va être plus inscrit dans telle esthétique, et donc potentiellement ça va être plus pertinent de proposer telle personne que telle personne. C'est aussi des réflexions qu'on a en amont et des choix qu'on fait. C'est pas juste on connaît machin et donc on te le présente. C'est une vraie réflexion de...
Oui, que ça fit avec...
Ouais, exactement. Et puis de DA, de compréhension, qui parle le même langage, le même langage artistique, musical.
Et ça arrive, ça, justement, que vous fassiez des matchs et puis, en fait, ça passe pas humainement avec l'artiste et du coup, on change ou...
Ouais, ça peut arriver.
Ça peut arriver.
Ça peut arriver.
J'ai l'impression que c'est rare, quand même. Mais
mais
ça peut.
C'est comme présenter quelqu'un qui va faire la régie de la tournée ou un ingénieur du son ou un scénographe. D'abord, c'est une première rencontre, c'est un café, c'est tu vois si les gens s'entendent, quoi, tu vois.
Typiquement, il y a les aspects créatifs. On l'a dit, vous accompagnez, vous proposez, vous suggérez. Vous avez des gens qui sont compétents, que vous pouvez proposer aussi, etc. à vos artistes. Mais il y a aussi, dans l'aspect créatif du show, des aspects plus techniques. Des ingénieurs du son, des ingénieurs lumière, des gens qui vont créer des décors, des choses comme ça. Est-ce que là, pareil, vous participez à la discussion? Est-ce que vous avez un réseau de techniciens, par exemple?
Oui, bien sûr. On travaille... Enfin, toutes les prods je pense des techniciens et des techniciennes plus affiliés avec qui tu travailles de manière plus régulière et potentiellement à qui tu proposes tel ou tel artiste en développant notamment quand ils n'ont pas de technicien, soit son, soit light. Nous, par exemple, pour Asfar, ça a été le cas. On lui a présenté Thomas, avec qui on travaille de manière régulière, et ça a fitté. Et en fait,
Quoi, Thomas, pardon ?
Il est ingé son. Technicien son, mais c'est un accompagnement sur le son, sur la voix, quel micro, quel kit. Enfin, ça va au-delà juste de faire sonner, au sens propre du terme, dans une salle. Ça va être une vraie réflexion sur ce qui se passe sur scène, comment on capte, comment on mixe.
C'est presque une école parfois. Vous avez vraiment un aspect pédagogique dans votre travail. On apprend les artistes apprennent un métier à vos côtés.
Ouais, d'une certaine façon. Ouais. D'une certaine façon. Après, il ou elle ne l'appréhende pas toutes de la même façon. Tu vois, c'est voilà. Et puis ça dépend aussi des trajectoires. Il y a des développements qui prennent des années, donc tu peux prendre le temps d'apprendre. Et puis il y a des trajectoires qui sont fulgurantes parce qu'il s'est passé tel accélérateur.
Est-ce que le public a eu ce que tu disais tout à l'heure, là, c'est quand le public en fait adhère avant que la profession adhère finalement, où tu te
retrouves. Ouais, ou des fois t'as les deux d'un coup. Tu vois, moi je me rappelle Pierre Demar, par exemple, ça a été fulgurant. On n'a pas galéré pendant des mois à faire des petits clubs, des petits trucs et tout. Ça allait très 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 vite, quoi. Genre, sa première date à Paris, c'était une Cigale. Très vite, ça a été un Olympia, puis un Zénith. Enfin, il y a eu une espèce de fulgurance comme ça. Donc ça, c'est un schéma rapide. Et puis par exemple Julien Granel, ça a été un travail. On a mis 8 ans avant de faire un Olympia. Mais on a réussi, en fin de compte, tu vois. Et c'est génial, c'est des trajectoires différentes, comme ça, plus ou moins organiques, au cours desquelles, effectivement, l'artiste va apprendre, va faire connaissance avec une équipe technique, avec plein de corps de métier dont il ou elle ne soupçonnait même pas l'existence. Et puis c'est à nous de proposer, d'apporter des bons profils, les profils qui nous paraissent pertinents en fonction des besoins de l'artiste, en fait.
J'imagine que sur un temps long comme ça, 8 ans, ce qui est assez colossal, en fait, quand on y pense.
Un peu ralenti par 2 ans de Covid, hein, donc ressenti 6.
On va rester sur 8, je trouve ça bien. Ouais. Mais du coup, l'artiste aussi apprend à, je dirais, tailler ses prétentions, ses demandes. Parce que, par exemple, si t'as un artiste qui arrive et qui dit « Moi, je veux que sur scène, j'ai une bagnole. » Est-ce que vous lui dites « Ouais, là, frérot, ça va pas être possible parce que faire rentrer une voiture sur scène, déjà, ça nous coupe des 2/3 des salles qui sont... dans ta cible d'audience potentielle. Donc, est-ce qu'il y a des trucs comme ça où parfois il faut dire à l'artiste mollo.
Il y a forcément.
Pas tout de suite, quoi.
Oui, il y a forcément des moments où on est obligé de dire que c'est pas le bon timing. Même sur des capacités de salle. Parfois, il y a des velléités d'artistes qui disent moi, je veux viser telle ou telle salle. Et nous, par rapport à notre connaissance du métier, du marché, de là où on est, les audiences de l'artiste, on va essayer de minorer et de dire c'est peut-être pas l'étape tout de suite d'après, c'est peut-être la marche 2. Donc voilà ce que je te propose. Discutons-en, échangeons.
Mais vous avez à chaque fois, en fait, est-ce que ça, c'est une grille qui est à peu près toujours stable, le rapport entre le nombre de gens qui t'écoutent et ceux qui vont vraiment se déplacer pour te voir ? Est-ce que ça arrive d'avoir des surprises avec des écoutes qui sont finalement... pour lesquelles on aurait donné une salle plus petite et puis en fait le public se mobilise à fond pour un artiste alors qu'il ne fait pas tant d'écoute que ça, mais il explose le score au niveau de la jauge.
Il y a vraiment les deux cas, j'ai l'impression. C'est-à-dire que justement, il y a ça, c'est ce qu'on appelle l'audience très engagée. Et parfois, en fait, tu as des artistes qui ont un public qui est très engagé. Donc au final, il va y avoir moins d'écoute que d'autres, mais avec un public qui va se manifester beaucoup plus vite et qui va vraiment répondre présent. Et puis parfois, il y a vraiment des artistes qui stream fort.
Et où personne ne se déplace.
Exactement.
Ah ouais.
Mais c'est pas ça, c'est qu'après, c'est des titres qui sont dans des playlists, où en fait, le public aime bien, mais potentiellement...
Se déplacera pas pour...
Parce que potentiellement, ne connaît pas le nom de l'artiste qui l'écoute. Moi, j'ai déjà eu, en tout cas...
Ça arrive de plus en plus souvent, même avec justement TikTok, les trends, les machins.
Oui, et puis ça dépend aussi, de fait, je pense, de la génération du public que tu touches aussi. Moi, pour prendre des exemples, un artiste comme Bertrand Belin, il fait une tournée qui est complète partout, et pourtant, il n'a pas des millions de streams sur Spotify et des millions d'abonnés à sa chaîne YouTube, tout simplement parce que son public n'est pas consommateur de ça, en fait. Et à l'inverse, sur des esthétiques, et peut-être où tu vas toucher un public plus jeune, tu peux un peu te faire aveugler en disant il y a des millions de monthly listeners sur Spotify, on va remplir les zéniths, mais pas du tout, en fait. Tu as un taux de transformation qui est archi faible. Donc, en fait, moi, je pense qu'il faut avoir un maximum d'indicateurs. En fait, il ne faut pas se contenter d'en avoir un ou deux, il faut en avoir plein, en fait. Quoi.
Et puis, tu prends quoi comme indicateur? Donc, si ce n'est pas que le chiffre du stream et pas que l'engagement sur les réseaux.
Ben, moi, ce que j'ai, le truc que j'affectionne le plus, c'est les trajectoires organiques et d'essayer de ne pas brûler les étapes. Parce que du coup, ça t'apporte des indicateurs réguliers. Tu vois, t'as un artiste qui va commencer une première date à Paris dans une salle de 300, puis 500, puis 800, puis 1500. Et puis comme ça, tu gravis en fait les échelons les uns après les autres. En plus de ça, tu commences à fédérer une audience. Si t'as eu l'envie de proposer un vrai spectacle, ça va se savoir que c'est un vrai spectacle, que c'est un vrai live. Donc t'as le bouche à oreille qui va opérer.
C'est marrant parce que c'était Miel de Montaigne qui nous disait ça, que lui il avait préféré faire trois fois une salle plus petite plutôt qu'une grosse salle tout de suite ou...
C'est un truc qu'on, je sais pas si c'est un mouvement vraiment, mais y compris des très gros artistes par exemple qui préfèrent faire plusieurs Bercy qu'un Stade de France aujourd'hui ou des trucs comme ça. Il y a un truc, une tendance, on a l'impression un peu de l'extérieur.
Ça c'est le ressenti personnel de l'artiste, c'est aussi à mettre en équation avec le reste de la tournée. C'est-à-dire, quand ton spectacle est taillé pour un certain type de salle qui vont constituer 80% d'une tournée ou 90% d'une tournée, et qu'un jour à Paris, parce que tu as fait un choix d'un truc énorme, tu es obligé d'adapter ton spectacle, de tout étirer, de tout faire en plus grand, bah parfois ça peut être ultra inconfortable pour l'artiste. Et tu vas te retrouver avec un spectacle à moitié réussi. Parce que finalement, en fait, le truc organique dont je parlais tout à l'heure n'est pas totalement respecté.
Oui, puisque tu as tout étiré, et donc il ne s'y retrouve pas.
Il n'a pas les mêmes points de repère que d'habitude.
Pas les mêmes marqueurs.
Et donc, quand tu arrives à Paris, qui est forcément un bassin de population beaucoup plus gros que les villes en région, tu peux aussi avoir la tentation, non pas de la grandeur, mais de la série dans un lieu plus petit. Et puis en fait, moi je crois qu'il faut écouter les envies aussi des artistes. C'est super important. Tu vois, on développe une artiste qui s'appelle Zélie. Elle avait un Olympia qui était complet un an avant. Nous, on lui a proposé de faire un Zénith parce qu'on pensait que
c'était sa place, voilà, classique, hein,
et que c'est ce qu'elle pèse en billetterie et tout ça. Et elle a pas taper du poing sur la table, mais elle a dit non, moi mon instinct me pousse pas à faire ça, c'est trop tôt dans ma carrière, je me sens pas de faire ça, donc on va faire trois Trianon. Bah respect, génial.
C'est courageux comme décision.
Tu vois, c'est génial, tu vois. C'est, en fait, chacun écoute aussi son instinct.
Parce que pour que les gens qui nous écoutent comprennent, donc l'Olympia c'est combien de personnes?
C'est 2800 places quand t'es en tout debout.
Ok, et le Trianon?
C'est 1500.
Donc en fait ça pourrait être... Tu commences par un Olympia et tu continues avec un Trianon, ça pourrait être considéré comme...
Là, elle en fait trois. Elle fait trois Trianons.
Okay.
Ce qui est l'équivalent d'un Zénith moyenne jauge, quoi, tu vois.
Mais donc, il n'y a pas toujours ce truc aussi de dire chaque salle doit être plus grande que la précédente.
Dans la trajectoire, souvent, c'est quand même la réflexion. Ouais. C'est de se dire, on va faire Boule Noire, Maroc, Cigale ou Trianon, on va dire Olympia ou Pleyel et Zénith, Bercy. On va dire, en schématisant, c'est un peu les trajectoires. Mais effectivement, selon les artistes, une fois que tu as un peu fait, par exemple, des artistes qui ont 5, 6, 7 ans de carrière, qui donc sont déjà passés dans toutes les salles. En fait, au final, tu n'as plus cette trajectoire. Donc, ça, après, c'est une vraie réflexion de savoir. Il y a des salles de cœur pour certains artistes qui se sentent mieux à la Cigale ou au Trianon, par exemple, sur des, on va dire, des capacités un peu équivalentes. Et après, effectivement, est-ce que tu fais des séries? Est-ce que c'est plus pertinent qu'une grosse date parisienne? Enfin, bon, après, c'est des réflexions stratégique, des envies de l'artiste, et puis après ça dépend à quel moment de la tournée ça se positionne, enfin est positionné aussi cette date parisienne. Enfin voilà, c'est vraiment toute une réflexion.
Juste parce qu'on a parlé à des techniciens, pour nos amis techniciens qui nous écoutent, les lighteux, les ingé-sons, machin, etc. Est-ce que parfois, enfin vous avez déjà votre réseau un peu établi de techniciens, est-ce que vous êtes à la recherche de techniciens réguliers? Est-ce que par exemple, il y a des gens qui vous contactent en disant voilà, je cherche du travail en tant que technicien, ça se passe comme ça aussi?
Ouais, on a notre réseau, mais je dirais qu'on est toujours en quête de nouveaux profils aussi, parce que ça nous arrive parfois de galérer à trouver des gens, parce que dans notre vivier, entre guillemets, tout le monde est pris, tout le monde est sur la route, y compris au sein de nos propres tournées. Donc nous, on adore faire rentrer des nouvelles têtes et si possible aussi des femmes. On manque vachement de femmes en fait au sein des équipes techniques et artistiques. Donc on est en permanence en train d'essayer de faire bosser des gens aussi pour la première fois, tu vois. Et puis il y a des histoires magnifiques. Il y a aussi des techniciens ou des techniciennes qui qui, par la force des choses, on les a aussi développées d'une certaine façon, tu vois. Et elles ont grandi avec leur projet. Et tu vois, moi, je me rappelle, il y a 7-8 ans, il y en a qui faisaient leur première date en club, et puis aujourd'hui, ils vont faire des Olympiades, des Zéniths, et puis c'est normal, quoi, tu vois. Donc c'est... Mais on est toujours... on reçoit aussi, alors peut-être un peu moins que des artistes, des sollicitations, mais on est souvent contactés, et c'est un vivier, enfin, c'est hyper important pour nous, en fait, de ne pas être dépourvus, justement.
Ouais, et puis d'avoir des c'est quand même des personnes qui sont sur la route en permanence avec les équipes artistiques, donc artistes, musicales. Quelque part, même s'il y a toujours un régisseur général, ça c'est aussi des représentants un peu, hein, quelque part de la structure de production. Donc c'est hyper important d'avoir un peu le même discours, la même vision. Voilà, c'est des postes clés, en fait.
Ouais. Et plus tu connais de monde, et plus tu as une diversité au sein de cette population-là, d'équipes de tournée, bah mieux c'est. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, bah, des fois, le courant ne va pas passer avec un artiste, il va préférer tel ou tel profil. Donc il faut essayer d'être le moins démuni possible, quoi.
On parle de production. De travailler avec les artistes. On n'a pas dit aussi simplement, enfin, comment ça se passe d'un point de vue administratif, si je puis dire. Un artiste, il va signer avec vous, il y a un contrat, on s'engage sur une période, j'en sais rien. Comment ça se passe chez Caramba, par exemple?
Chez Caramba, on fait des contrats, on a des contrats pratiquement chez, enfin, avec tous les artistes, et effectivement, ça définit la durée d'une tournée. Voilà, donc il y a un cadre, en fait, légal, précis, sur lequel on se met d'accord.
T'as un minimum, par exemple, de dates? Qu'est-ce qu'on considère une tournée? C'est à partir de combien de dates? Ou sur une région géographique particulière?
Ou est-ce qu'on peut faire appel à vous pour 3 dates, d'ailleurs? Ou c'est forcément pour plus?
Il y a un forfait date?
Ou est-ce que ça compte pas en date, mais plutôt en année où on travaille ensemble et puis on voit si on met plusieurs dates ou pas?
Après, c'est souvent à partir de la sortie d'un album ou d'un EP, en fait. C'est souvent le début, en fait, d'une tournée. Après, on peut garantir un nombre de dates, effectivement, sur une période définie, selon une stratégie, le classique
pour un artiste qui sort un album.
Je sais pas.
Le contrat cadre.
Non, je sais pas. Après, c'est des garanties. C'est un minimum une quarantaine de dates sur 2 ans, par exemple, ou 18 mois sur une sortie de tournée. Enfin, je sais pas trop. Ça dépend, en fait. Ça dépend vraiment des artistes, de là où on est l'artiste dans sa carrière, des envies. On fait pas autant de dates quand on fait une tournée de Zénith que quand on fait.
Ça dépend de la taille des salles.
Ça dépend de la taille des salles. En fait, ça dépend de vraiment plein de choses. Donc c'est vraiment, y a pas de contrat de type, en fait.
Vraiment, on s'adapte à chaque fois.
On s'adapte à chaque fois parce que les demandes sont différentes, les stratégies sont différentes, les envies des artistes sont différentes.
Les points de repère sont identiques. Ensuite, les montants varient en fonction effectivement de l'artiste.
Mais c'est quoi les points de repère, pardon, tu veux dire?
Alors, déjà, en fait, tu as 3 types de contrats. Tu as le contrat d'artiste, contrat de coproduction et contrat, en gros, de prestation de service. Tu vas être que agent. Mais pour parler du contrat d'artiste qui est le plus répandu, et notamment chez les artistes en développement, les points de repère, ça va être... déjà, est-ce que c'est un contrat d'artiste ou de copro ou de prestation? La durée du contrat, le nombre de dates sur lesquelles tu t'engages, le budget minimum sur lequel tu t'engages pour créer le spectacle, la rémunération de l'artiste que tu vas définir, ta rémunération en tant que producteur au spectacle, et à la fin, la répartition du résultat. Parce qu'à la fin d'une tournée, tu fais la différence entre les recettes et les charges. Si c'est positif, ça s'appelle un bénéfice, il est partagé. Et s'il est négatif, ça s'appelle de la perte. Et dans le cadre d'un contrat d'artiste, seul le producteur de spectacle va assumer cette perte. Ouais. Donc ça, tu...
Donc l'artiste, il n'a pas à rembourser, par exemple?
Pas dans le cadre d'un contrat d'artiste. Non. Et tu vas définir ces montants-là. Voilà, tu vas t'engager sur tant d'années, tant de mois, tant de dates minimum sur lesquelles tu t'engages. La rémunération de l'artiste, en général, elle est échelonnée, c'est-à-dire plus les salles sont grandes, en gros, pour schématiser, mieux l'artiste va être payé à la source. Sachant que potentiellement, il peut être payé 2 fois. Il peut être payé pour chaque concert qu'il va faire et payé à la fin de la tournée si elle est bénéficiaire. Ta commission. En général, il y a, peut-être qu'on en parlera plus tard, mais qu'est-ce qui se passe dans le cadre d'un concert privé, justement, avec une marque, tu vois, où en général, les clés de répartition sont un peu différentes. Mais en gros, voilà, c'est pas sorcier. Hein. T'as ces 6 ou 7 points qui font l'objet d'une proposition. Et puis quand tout le monde est d'accord, on signe un contrat et puis c'est parti, quoi.
C'est intéressant que tu as parlé de la rémunération de l'artiste. C'est le rôle du producteur de rémunérer l'artiste qui va se produire sur scène.
Techniquement, on est son employeur.
Ah ouais.
Ouais. Okay. On est tenu de lui faire un salaire.
D'où le fait que vous occupez de la billetterie en tant que producteur, etc. Enfin, vous avez une mainmise sur les aspects économiques, entre guillemets, du spectacle. Et donc ensuite aussi, vous récupérez le...
Ouais. Tous les flux recettes et charges transitent par nous.
Ouais, c'est ça. Ouais. Très intéressant.
Du live,
oui, bien sûr. Oui, parce que j'imagine que la salle aussi, quand même, rentre en compte dans tout ça. D'ailleurs, ça peut nous amener au sujet vraiment du réseau des salles, etc. Comment elle se rémunère, la salle, par exemple ? Parce qu'on a compris, ok, vous produisez un concert, une tournée, etc. D'ailleurs, ça vous coûte de l'argent. Vous avancez de l'argent, j'imagine, quand même, pour produire le concert.
C'est que ça. C'est un métier de risque. Hein.
Ensuite, en gros, il faut partir du principe qu'avant qu'un artiste monte sur scène, le producteur a investi de l'argent. Il a payé des répétitions, des résidences, des personnes pour créer ce live, pour qu'il soit ensuite visible par le public.
Créer un spectacle, ça coûte très cher. On s'en rend pas compte.
On peut avoir une. J'imagine que c'est hyper varié, suivant, etc. Mais déjà, un spectacle un peu, disons, avec une scénographie classique, limite pour un groupe de rock, un power trio, hyper simple, combien ça peut coûter? Et à l'inverse, si je suis Booba, j'ai une connerie, ça peut monter jusqu'à combien? Juste une espèce de grande fourchette comme ça pour
Les têtes d'affiches qui font des stades, ça se chiffre en millions. Sur les projets en développement. Qui vont faire, je sais pas, 80 dates, dont une Cigale, un Trianon, etc., tu vas rapidement en avoir pour 50 ou 60 000 euros sans aucun problème. Parce que tu vas financer les répétitions, la résidence, l'achat de matériel, une création lumière. Parfois, tu achètes du backline. Tu payes les gens pour travailler à la création d'un spectacle. Bien sûr. Tu les payes pour répéter. Donc, ça monte très, très vite. Donc, c'est pour ça que, avant que le premier concert ait eu lieu, tu démarres à moins beaucoup. Ouais. Voilà, et donc tu vas, en essayant de développer l'artiste, réussir à amortir tes frais de création au fil de la tournée.
Et est-ce que, donc on l'a évoqué, on va peut-être d'ailleurs rentrer dedans, mais sur le réseau de salles, donc c'est différent quand tu vas dans un théâtre municipal, j'imagine, que dans une salle privée, parce qu'il y a peut-être des notions de subvention aussi que vous pouvez demander auprès de la région, de la ville, pour accompagner la tournée.
Nous, on n'a pas forcément accès aux subventions régionales.
D'accord. Parce qu'il n'y a pas, par exemple, des demandes aussi des régions de dire « nous, on aimerait bien que notre région rayonne un petit peu, donc si vous pouvez venir avec un artiste ou une artiste qui est en train de tout péter, ça nous ferait plaisir. »
Est-ce que la subvention ne va pas aller plutôt aux salles et ensuite sur la programmation, etc.
Exactement, en fait. Ouais. Les salles, on va dire publiques, donc on va dire centres culturels, théâtres municipaux, ce type de structure, ont des subventions de régions, municipales, d'État parfois, ou d'agglo. Donc voilà, ça va leur constituer, on va dire, leur capital. Et avec ça, il faut payer les salaires des personnes qui travaillent à temps plein dans les structures. Et puis, ils vont avoir un budget artistique. Et avec ce budget artistique, ils vont programmer des spectacles, des artistes. Et ces spectacles-là...
C'est là où vous rentrez.
Et c'est là où nous, on rentre en jeu, effectivement.
Et ces salles-là, du coup...
Donc la billetterie, par exemple, on parlait de billetterie tout à l'heure. Quand on fait une session, donc à ces salles-là, c'est les salles qui vont porter et garder la billetterie. Nous, par exemple, on va leur céder, on va leur vendre le concert pour X euros. Et... S'ils ont une recette supérieure, en fait, ils gardent tout. Nous, en tout cas, voilà, on a vendu le spectacle et ils détiennent la billetterie.
Alors, pour que ce soit bien clair, peut-être Simon, tu peux nous dire ça. Donc, c'est lorsque c'est notamment du public, est-ce que c'est exclusivement quand c'est du public qu'on cède comme ça le spectacle, la billetterie, ou ça peut être aussi dans une salle privée?
Tu peux faire un contrat de cession avec un opérateur public ou privé, ça dépend pas de sa nature.
Mais est-ce qu'il y a quand même des normes, globalement, dans le privé, dans le public, on fait un peu plus de sessions, par exemple, ou pas forcément, non?
Je pense que en tout cas dans le service public, c'est pas une obligation, mais en tout cas ils fonctionnent principalement avec des contrats de cession. Okay. Ou alors après c'est des co-réalisations, mais on devient un petit peu plus technique quand on parle de ça.
Mais session étendue, là ça va durer 4 heures. Ouais,
en fait le truc c'est que dans un cas, quand c'est vous qui produisez, c'est vous qui allez...
Quand on est organisateur.
Vous allez booker les salles parce que vous avez envie de vous produire là. Oui. Alors que dans l'autre cas, quand c'est de la session, c'est la salle qui vous appelle, qui dit on aimerait bien que votre artiste...
Ou c'est nous qui appelons la salle pour lui vendre. Tu vois,
D'accord. Il y a du démarchage aussi comme ça.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire, vous dites, mon artiste aurait envie de se produire à la mairie de Vau-en-Velin, par exemple.
C'est possible. Pas,
hein. Je dis
c'est
on l'a au pif en plus. T'es même pas de là-bas toi donc.
Bah c'est pas loin de chez moi. Mais...
Non mais d'accord parce que c'est vrai que enfin dans l'imaginaire pour moi c'est je vois les salles, les centres culturels, les théâtres municipaux etc et je me dis enfin des fois je passe tu vois moi je suis de Maison Alfort et je vois tu sais sur les colonnes Maurice tel artiste qui fait un concert je me dis qu'est-ce qu'il fout là c'est pourquoi. C'est comment ? Est-ce que c'est l'artiste ? Je me dis, est-ce que c'est l'artiste qui s'est dit, moi, j'ai envie de jouer au théâtre de Bussy à Maison
Alfort. Bizarre à Vénissieux, par exemple. C'est peut-être que vous connaissez ça.
Bien sûr.
Là où effectivement, c'est proche de Vaux. Voilà. C'est intéressant.
C'est pareil, une date, c'est soit le booker ou la bookeuse dont on parlait tout à l'heure qui a démarché la salle, soit c'est un intérêt entrant de la salle qui a voulu programmer l'artiste. Quoi. Mais on a la chance d'être dans un pays où il y a un réseau de salles qui est exceptionnel. Quoi.
Il faut en parler parce que tout à l'heure, tu as dit un truc intéressant, Alice, c'est-à-dire en région parisienne, en gros, il y a quand même un circuit, ça va, on connaît des noms connus de
dans
grandes
Paris,
salles.
Dans Paris, Intramuros, ouais.
Après, il y a tout ce qui est en dehors de Paris. Alors, j'imagine que dans votre métier, c'est quand même important ce qui se passe à Paris, parce qu'on sait qu'il y a une concentration quand même culturelle, des publics, etc.
Médiatique.
Médiatique, évidemment.
Mais le théâtre de Bussy à Maison Alfort, par exemple.
Super. Ouais, comment on établit un réseau ? Est-ce que c'est des salles avec qui on travaille régulièrement ? Est-ce que y a des disparités en fonction des territoires aussi, mine de rien ?
Quand même, effectivement, ouais.
Ouais.
Puis après, il y a quand même tout un réseau de SMAC, de scènes de musique actuelles, ouais. Également, qui sont des salles que... Après, c'est aussi... Enfin, voilà, c'est des salles que en debout, en capacité debout, par exemple. Donc, selon la typologie de l'artiste, c'est aussi... Tu vas viser des salles, soit club, ça va être une histoire de capacité et ensuite une histoire de configuration. Ça va être aussi les premières réflexions au démarrage selon la typologie de l'artiste. Les artistes qui vont plus faire de la chanson vont avoir tendance à se dire... que c'est mieux de viser des salles qui sont en configuration assise ou en assis debout selon sur la musique actuelle, plus pop, de l'urbain, etc. On va aller plutôt sur des salles en debout. Donc déjà, ça va segmenter en fait, et un peu...
C'est un peu ça en fonction, Simon, en fonction de la DA, entre guillemets, de l'artiste, enfin de son identité du moins, on applique des filtres en disant, alors ok, attends, là on recherche plutôt telle typologie, plutôt telle, etc. Puis petit à petit on arrive comme ça à affiner et à construire un circuit dans toute la France.
Ouais, comme disait Alice, en fait, les salles de musique actuelles, les fameuses SMAC, en général, la SMAC un peu type, elle a la grande salle qui va faire autour de 1002 et le club qui va faire peut-être 400-500. Rares sont les SMAC qui proposent une config assise. La plupart, effectivement, elles sont en tout debout. Donc, il y a des artistes qui ne vont se produire que en tout assis. Donc, de fait, tu vas pas pouvoir faire beaucoup de SMAC. Tu vas plutôt te tourner vers le réseau culturel. Donc là aussi, le maillage dans le territoire, il est exceptionnel. Hein, le nombre de centres culturels, de théâtres, de scènes nationales, enfin, c'est incroyable. Et à l'inverse, il y a des artistes qui ne se produisent que en debout, qui ne veulent pas du tout se produire avec un parterre en tout assis. Donc voilà. Et il y a des artistes qui font les deux. Et là, c'est génial parce que tu peux mixer les deux réseaux. Tu vas avoir des tournées du coup qui sont vachement plus denses parce que tu vas pouvoir à la fois te reposer sur le réseau des SMAC, mais aussi des centres culturels. Ça, c'est fabuleux.
Ouais,
c'est peut-être pour parler encore de cette histoire de réseau, mais aussi de production et tout, parce que vous représentez donc Alice et Caramba. Simon, CW Spectacle. Il y a plein d'autres sociétés en fait en France qui travaillent dans votre métier. Je sais pas, on peut citer Auguri, Allo Floride, Bleu Citron, bon, voilà, Wart. Bon, c'est vraiment pour en citer quelques-uns comme ça. Qu'est-ce qui fait qu'un artiste va contacter une de ces boîtes plus qu'une autre ? Est-ce que ce qui va se jouer, c'est la façon de travailler sur la production, par exemple ? Est-ce que ça va être au contraire plutôt sur le maillage, le réseau des salles qu'on connaît ? Qu'est-ce qui vous différencie ? Alors, je sais qu'il y a plein de trucs aussi dans la nature de votre travail et tout différent, mais globalement, quand même, vous faites à peu près le même métier. Pourquoi je devrais aller voir un plus qu'un autre et tout ? En dehors de... Évidemment, vous vous prêchez pour votre paroisse, mais cette idée qu'il y a quand même peut-être des profils plus adaptés que d'autres à certains artistes, etc.
Par rapport à toutes les sociétés que tu as citées, donc plutôt des producteurs de spectacles indépendants,
ouais.
Je pense que les savoir-faire sont assez proches, objectivement. Mmh. Donc après, la décision qui fait qu'un artiste va choisir de s'engager chez un tel ou un tel, c'est probablement la rencontre humaine, c'est le partage de vision, la philosophie, l'enthousiasme aussi. C'est des petites choses comme ça, rationnelles et irrationnelles. Hein. Et puis parfois, il y a aussi des approches de contrats et de groupes. Voilà, par exemple, chez nous, il y a aussi parfois... l'aspect attelage entre le disque et le spectacle qui fait qu'un artiste va vouloir aller chez nous parce qu'il va bénéficier d'une force motrice à deux têtes qui a déjà fait ses preuves sur plein de projets en développement. Donc il va vouloir aller retrouver ça. Il y a des artistes qui, pour reprendre l'expression, n'ont pas envie de mettre tous les œufs dans le même panier, donc ils vont vouloir vraiment séparer les choses. Nous, parfois, ça nous arrive aussi de signer des artistes qui ne sont pas du tout en label chez Wagram. C'est la moitié de nos artistes, donc tu vois, on vit un peu les deux schémas aussi. Mais tous les producteurs que tu as cités, voilà, c'est des gens, en plus, on en parlait tout à l'heure, mais avec qui on s'entend très bien, avec qui on se retrouve souvent et tout. Donc voilà, c'est des affinités humaines, c'est des timings aussi. Tu vois, un artiste en développement, peut-être qu'il ne va pas vouloir faire 15 rendez-vous non plus, peut-être qu'il va en voir 2-3. Il y en a qui s'arrêtent au premier qu'ils ont vu.
Est-ce qu'il peut y avoir une histoire de force sur des territoires? Par exemple, je sais pas, je prends un truc complètement au hasard, je sais pas, mais genre, je sais que tel tourneur en Moselle, globalement, il est capable de contacter des salles que nous, on connaît pas bien, ou j'en sais rien, ou des choses comme ça. Et si tu veux miser sur ce territoire, ou peut-être du coin d'où tu viens, peut-être qu'il faut plutôt que ça aille voir eux, j'en sais rien.
Territoire de Belfort, non, par exemple.
Pour le coup, le territoire en France joue pas. Après, il peut y avoir des artistes qui ont une velléité d'export, par exemple, et donc, qui vont se rapprocher de structures qui potentiellement fait de l'export.
Parce voilà, qu'il y a des, tourneurs qui peuvent faire tourner à l'étranger en France.
Voilà, nous, par exemple, chez Caramba, on fait tourner beaucoup de projets à l'étranger.
Ah. Vous faites donc, ça aussi, Simon, aussi. Chez Doulet.
Voilà, okay. On fait aussi.
Et ça, par contre, tout le monde n'est pas capable de le faire. Donc là, à ce moment-là, on cible.
On n'est pas tant, j'ai l'impression. Ou alors, après, c'est sur des esthétiques différentes ou une manière de faire différente. Forcément, voilà, des structures comme Live Nation, AEG, parce que c'est des grands pipes et que les maisons mères, au final, ne sont pas en France. Bah, forcément, leur signature française peuvent accéder peut-être plus facilement, et encore, je suis même pas sûre. Mais en tout cas, ça peut être directement inscrit contractuellement que si c'est signé en France, ça peut aller faire une tournée à tel ou tel endroit. Et puis après, il y a des projets qui s'y prêtent. Hein. C'est toujours pareil. Il faut aussi avoir l'audience. L'idée, c'est pas de dire, tiens, on sait faire de l'export. C'est que c'est un travail de label sur un territoire, un travail de l'artiste sur un territoire. Voilà, il faut que ça soit cohérent, intelligent, que ça s'y prête.
Alors, on a évoqué la Live Nation. Est-ce que justement il y a. Donc Live Nation, c'est vraiment le mastodonte.
C'est le même métier que le vôtre, en gros, à peu près, Live Nation, AEG. Alors peut-être d'une manière différente, parce que c'est des mastodontes, effectivement, mais c'est des tourneurs, on peut dire ça. Des boîtes de production de spectacles.
Je serais tenté de répondre oui et non.
Je pense qu'on ne fait pas tout à fait le même métier. Moi, j'aurais tendance à dire ça. Ce sont plus des agents, en fait, quelque part, parce qu'il y a beaucoup, on va dire, en tout cas, Live Nation, AEG peut-être un peu moins, mais Live Nation a quand même, j'ai la sensation, principalement d'artistes inter qu'ils produisent et qu'ils font tourner en France. Donc, c'est potentiellement pas forcément le même métier. Le spectacle, comme expliquait tout à l'heure Simon, arrive et prêt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'investissement, de réflexion sur...
Oui, Live Nation, ils ne font pas de développement d'artistes, en fait, concrètement. C'est...
Ils en font un tout petit peu mais ouais. C'est pas dans le cœur de leur ADN, ouais, en tout cas.
Exactement. Donc, on va leur dire, bah, voilà, nous, on a tel artiste qui va être en tournée en Europe à tel moment. Donc, on aimerait faire, par exemple, une date à Paris, une date à Lyon, une date à Nantes. Hein, voilà, on va se dire ça. Et eux vont s'occuper d'accueillir le projet et faire en sorte qu'il y ait du public. Ils vont mettre en place la billetterie, ils vont produire le show en France. Mais ils n'ont pas l'aspect créatif et création de spectacle dont on parlait tout à l'heure.
Parce que Live Nation, AEG, donc c'est les deux premiers organisateurs de spectacles dans le monde, les deux plus gros. Il y a, si on prend à l'échelle française, tous les indépendants qu'on a cités, et dont vous aussi, Caramba, W Spectacle. Parce que même si vous êtes lié à Wagram Stories, à Wagram...
Oui, qui est
Wagram,
lui-même un groupe totalement indépendant.
Absolument.
Hein. Indépendant, qui, pour moi, dans le sens où il n'y a pas d'actionnariat extérieur. Donc, okay.
Parce qu'il y a aussi, évidemment, les majors. C'est-à-dire que Universal, Warner, Sony vont aussi avoir en interne des solutions pour faire tourner des artistes.
Bien sûr.
Donc on a vraiment un triptyque comme ça. Enfin, je ne sais pas si d'ailleurs il faut mettre Live Nation, AEG en dehors de ça, complètement dans leur propre typologie, mais ce n'est pas exactement pareil que les majors. Donc il y a les indépendants, Live Nation, AEG, les majors, ça résume
oui,
à peu près le marché.
Et les groupes, quoi. Il y a des groupes aussi, Fimalac, ouais. Il y a des groupes comme ça. Après, il y a des choses qui bougent, il y a des revends, des achats, des choses qui se fusionnent, mais... Voilà.
Fusion Acquisition.
Fimala qui font des... c'est un tourneur, en fait. C'est une boîte.
Ils investissent dans une... ils ont investi dans un tourneur, Fimala.
Oui, bah, ils avaient racheté Augury, un certain nombre de boîtes de production. Là, je pense qu'Augury
TS, était, notamment.
TS, Augury était cédé à EG. Bon, voilà, il y a des mouvements comme ça. Il y a un réseau de salles aussi. Enfin, c'est, voilà, là, c'est quand même un gros groupe. Hein. Nous, on est plus des petites boutiques, plus ou moins grandes, indépendantes, quoi.
Pour toi, parce que c'est important, le terme d'indépendance, il revient beaucoup dans la musique d'ailleurs. C'est l'idée, c'est lié à l'actionnariat pour toi, vraiment.
Ouais, c'est pareil, je suis pas sûr qu'il y ait une définition scientifique de ça. Ouais. Mais oui, indépendant, pour moi, ça veut dire que tu dépends pas de l'extérieur, quoi. T'es indépendant. Ouais. Voilà. Donc, ça veut dire.
T'es maître de tes décisions, en fait. Ouais. C'est-à-dire que tu n'as pas. Ouais, ça, t'as pas de compte à rendre. Les objectifs que tu as sont ceux que tu te fixes. Tu ne dois pas répondre à certaines équations. Je pense que ça permet, en tout cas, je pense que dans nos deux maisons, entre guillemets, d'être flexible, réactif. T'es pas obligé d'avoir 18 accords avant de pouvoir faire quelque chose ou être réactif pour un achat de matériel, pour, enfin, voilà, c'est plein de petites choses comme ça. Je pense l'indépendance au-delà de l'actionnariat pur.
Comment les majors, Sony, Warner, Universal, elles vont avoir des structures dédiées. Tu parlais parfois de rachats, etc. Elles ont parfois, il y avait des indépendants qu'elles ont rachetés, intégrés à leurs équipes. Elles peuvent en créer aussi directement en interne. Mm-hmm.
Bah, tous ces cas de figure ont eu lieu, okay. Il me semble.
Peut-être à quelques exemples.
Il y a longtemps, Sony avait racheté Arachné, Warner avait racheté la société de Jean-Claude Camus, qui au fil de l'eau est devenue Decibel. Okay. Chez Universal, il y a eu la création d'Initial il y a quelques années, qui était une structure vraiment dédiée au 360. Et puis il y a aussi Vertigo, qui est leur boîte de production de spectacles. Donc là, il y a des schémas un peu différents, comme ça, en fonction des majors, effectivement. Ouais.
Et le métier est le même, globalement, dans ces structures qui, certes, ont un actionnariat de majors, mais globalement, elles font la même chose que vous.
Oui, c'est des êtres humains qui font le même travail au quotidien. Hein, tu vois, c'est très proche.
Et qui peuvent aussi travailler avec des artistes signés en label indépendant, mais qui les accompagnent juste pour la tournée, ça se fait ?
Oui, il me semble qu'eux aussi sont dans des schémas qui ne sont pas du tout fermés, en fait, en vrai. Tu vois, je prends l'exemple de Benjamin Biolay qui est signé chez Universal en disque et qui est produit par Decibel, qui est pourtant la branche live de Warner, tu vois.
Ouais.
Donc c'est un des exemples parmi plein d'autres, hein, tu vois. On est des producteurs de spectacles avant tout. On n'est pas, en tout cas, moi je revendique de ne pas être l'espèce de département captation de droits concert de Wagram, quoi. Tu vois, c'est pas aussi bourrin que ça.
Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a des artistes Wagram qui peuvent aller chez Decibel pour...
Ouais. C'est un schéma tout à fait possible, en fait.
Est-ce que...
Nous, on a un artisanat, quand même. Par exemple, pour donner un exemple entre nos deux structures, moi, je collabore avec un artiste qui s'appelle Chien Noir et qui vient de signer chez WLAV, donc un label Wagram, par exemple.
Est-ce que Live Nation, AEG, d'une part, les majors de l'autre, les indépendants, bon, c'est schématique, hein, mais comme ça, on comprend les choses. Est-ce que c'est des... Entre eux, c'est des partenaires? Est-ce que c'est des concurrents? Est-ce que, par exemple, vous dites, bon, les majors, elles ont une manière de travailler, ça ne nous correspond pas toujours, ou à l'inverse, c'est plutôt Live Nation AEG, on comprend bien qu'il y a quand même une nature aussi dans la manière de travailler qui est différente. Et comment c'est vécu un peu dans ce marché? Est-ce que, genre, ça se tire un peu la bourre, tu vois? Est-ce qu'il y a, notamment, par exemple, pour les finances, tu vois, il y a un moment où il y a un marché, il n'est pas extensible à l'infini.
Comment ça se passe? Je pense qu'il y a de la place vraiment pour tout le monde. Et après, on est, par exemple, on parlait de Live Nation et AEG. Pour moi, on n'est ni partenaire ni concurrent parce qu'on ne fait pas tout à fait exactement le même métier. Je pense qu'avec des structures plus indépendantes où on a plus la même philosophie, la même ADN, en fait, il va y avoir une concurrence au moment de la signature d'un projet, par exemple. Dans le final, ça va se résumer à ce moment-là.
Quand il y a un truc qui a buzzé aux Inouïs, par exemple, vous êtes un peu tous comme ça, genre derrière. Alors, je l'ai vu avant et tout. Non, c'est...
En fait, ça va être voilà, on va tous envoyer une stratégie, on dit le mémo, on va rencontrer l'artiste, et puis après, j'ai envie de dire, c'est que le meilleur gagne, en fait. Et comme disait tout à l'heure Simon, ça va être une histoire de proposition, une histoire de relation, d'affinité. Et puis voilà, et c'est le jeu. Donc c'est dans ce sens-là où il n'y a pas de concurrence au sens strict du terme. On n'est pas en fight, en fait. On est dans le même écosystème, chacun avec ses projets, son fonctionnement, ses appétences. Il s'avère que parfois, les appétences sont communes parce qu'il y a tel ou tel artiste, voilà, qu'on trouve intéressant, intéressante. Et puis voilà, on va faire une proposition. Et si ta proposition est retenue, tant mieux. Et voilà. Et après, c'est cool de voir la trajectoire aussi qui est faite derrière.
Et en fait, notre intérêt, c'est de bosser avec eux. On est dans le même écosystème. Live Nation, ils ont le festival Main Square à Arras, par exemple. Bah, on a envie d'avoir des artistes qui jouent au Main Square. AEG, Rock en Seine et Willow Green, depuis peu. Je veux dire, on a besoin d'eux aussi. Tu vois, on est quand même, je dirais pas dans une relation d'interdépendance, ce serait peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, on est dans un écosystème où tout le monde se parle et il faut que les choses circulent.
C'est intéressant ce que tu notes là, parce que du coup, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a donc des boîtes de prod qui sont plutôt internationales, donc Live Nation par exemple, qui en plus ont des salles, des festivals.
Tu sais quoi, là, ça va même plus loin. Il y a 4 groupes qui sont Live Nation, AEG, CTS Eventime et Superstruct. Superstruct, ouais, qui ont plus de 200 festivals de musique en France. En France, n'importe quoi, en Europe. Ouais. Donc en fait, c'est hyper concentré. C'est-à-dire qu'il y a vraiment.
Là, on sort du. Ils sont à la fois jugés partis, quoi. Enfin, tu vois, ils sont.
C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Par exemple, dans les médias, on parle souvent de la concentration médiatique au niveau des actionnaires. Par exemple, en disant, en fait, si on regarde des journaux, des télés, etc., ça appartient à 4 milliardaires. Enfin, j'exagère, mais voyez le truc.
Non, tu n'exagères pas. C'est triste, mais.
Est-ce que c'est un peu pareil dans la musique? Et est-ce que vous, à votre échelle, parfois, vous confrontez à des difficultés liées à ça? Au fait qu'il y a des partenaires, vous allez pouvoir moins les atteindre parce que les intérêts ne sont pas les mêmes, ou ils vont privilégier les intérêts, tu vois, de partenaires à eux?
On va dire les choses. Est-ce que concrètement, on peut vous empêcher de positionner des artistes que vous accompagnez sur un Willow Green, par exemple?
Nous empêcher, ça serait un peu radical. Ouais. Moi, je pense que, par exemple, AEG ne peut pas... dans le cadre des festivals qu'ils programment, ils ne peuvent pas mettre que des artistes AEG. Ils vont avoir besoin aussi d'artistes qui sont chez des concurrents ou des confrères ou des consoeurs, ça dépend comment tu as envie de les appeler. Et pareil pour Live Nation au Main Square. En fait, en vrai, tu vois, ils ont aussi besoin de local. Donc, il y a une certaine forme de complémentarité. Voilà. Chez nous, on ne va pas avoir de grosses têtes d'affiches internationales, mais on va avoir, tiens, le nouvel artiste en développement qui commence à fédérer une audience, le middle qui est établi.
Confirmé, ouais.
Et en soi, bah, c'est, je veux dire.
Oui, mais ça veut dire, en fait, si on. Très, très cyniquement, si on tire cette réflexion-là, ça veut dire que vous développez des artistes, vous les accompagnez, vous les faites grandir, ils grandissent avec vous, etc. Et à un moment donné, si l'artiste il a envie d'être big in Japan, il va dire bon, bah, salut les gars, c'était super, mais.
Je vais chez Live Nation.
Je vais chez Live Nation.
C'est possible,
bien sûr. Oui, c'est possible, mais pas forcément non plus.
Je prends un exemple, parce que c'est important. Dans votre modèle économique aussi, tu me dis si je dis une bêtise, Alice. Par exemple, vous travaillez avec Grand Corps Malade chez Caramba. Mmh. Je suis sûr qu'un Grand Corps Malade, peut-être un Ben Mazu à une plus petite échelle, mais que globalement, vous avez quelques têtes d'affiches qui, mine de rien, vous permettent d'équilibrer les finances. C'est-à-dire que c'est les gros qui permettent de rentrer de l'argent et de financer des produits, enfin des produits n'importe quoi, des artistes un peu plus petits.
C'est assez schématique.
Ah ouais, ça se passe pas tant que ça.
Ouais, parce qu'il y a. En fait, c'est un écosystème, la gestion d'une structure. Tu vas avoir déjà la gestion du projet en tant que tel. C'est-à-dire que quand même, l'idée, c'est que quand tu développes, qu'à un moment donné, même si tu ne gagnes pas d'argent, tu tends vers un équilibre et que ça ne soit pas parce que tu as telle ou telle tête d'affiche que ça va venir nourrir et en fait compenser des pertes. Donc ouais, en fait, l'idée,
d'être rentable,
c'est quand même,
dès le départ.
Ouais, enfin, rentable en tout cas, d'être dans un
équilibre.
Un équilibre. Après, on a quand même aussi des subventions qui existent sur chaque projet. Donc, voilà, il y a du crédit d'impôt également.
Mais si on compare aux labels, dans les labels, ça se passe quand même souvent comme ça, dans les labels de musique. C'est qu'il y a quand même quelques gros artistes qui permettent de financer des projets plus en développement. Vous, c'est pas le cas.
Mais c'est une industrie comme une autre, en fait. Mmh. T'as des projets qui vont fonctionner, t'as un département un peu R&D, alors c'est des mots qu'on n'emploie jamais, hein, tu vois. Mais en fait, les petits d'aujourd'hui sont peut-être les grands de demain. En tout cas, tous les grands ont été petits un jour, donc tu vois. Et donc il faut trouver l'équilibre. Il faut trouver l'équilibre entre un certain nombre de paris que tu fais sur un nombre d'artistes en développement et avoir suffisamment, comme tu disais tout à l'heure aussi, de projets plus développés qui vont t'apporter une garantie de rentabilité qui fait que l'ensemble tient debout. Voilà, tu vois.
Et jamais on s'inquiète qu'une major, qu'un AEG
Viennent te choper,
viennent prendre le gros et mettre un peu en péril l'équilibre précaire parfois.
On en parlait un peu tout à l'heure. On a des contrats qui nous sécurisent une certaine forme d'exclusivité pour une période donnée. Donc on a quand même de la sérénité par rapport à ça. Et puis ensuite, ben écoute, les artistes, t'as des artistes qui sont fidèles, t'as des artistes qui partent, t'as des artistes qui arrivent aussi. Oui, tout est possible en fait, hein, tu vois. C'est.
Il y a des artistes qui peuvent, genre qui étaient chez un big, genre Live Nation ou autre, qui arrivent chez vous.
Bien
après.
Sûr, bien sûr. Bien sûr. Ils vont venir chercher peut-être quelque chose qu'ils n'ont pas eu chez eux ou qu'ils n'ont plus eu chez eux, tu vois. Tout est possible en fait. Hein, c'est des schémas assez ouverts.
Est-ce que, parce que là on parle des aspects financiers aussi, mine de rien, ce qui est hyper important dans un métier comme le vôtre. Il y a une différence entre faire tourner dans les salles et tourner dans aller faire des festivals, par exemple. On dit souvent que les festivals, c'est assez intéressant pour les artistes d'un point de vue économique, parce qu'ils ont, bah, ils ont pas à louer la salle, ils ont peut-être, il y a moins de frais de production aussi, j'imagine, en festival que quand on a une grosse scénographie dans une salle fixe, etc. Est-ce que c'est une intuition qui est bonne ou en fait, vous de votre côté et pour les artistes, est-ce qu'il y a une différence entre l'économie des salles et l'économie des festivals?
En fait, à partir du moment où tu es en session, par exemple, que ça soit en salle ou en festival, c'est entre guillemets kiff-kiff, parce qu'avec les festivals, c'est de la session. On n'est pas producteur. Ouais.
Bah, en fait, les festivals, il y a un double enjeu. C'est vrai qu'il y a un enjeu économique, mais tout simplement parce qu'en fait, en juin, juillet, août, de toute manière, tu fais quasiment plus de dates en salle. Oui. Tu vois. En France, on ne fait pas de date en salle à ce moment-là. Il y a les vacances scolaires qui durent 2 mois. Il y a plein de spécificités de notre territoire qui fait que de toute manière, les salles sont fermées. Par exemple, aux États-Unis, il y a vachement de tournées l'été dans les salles parce qu'ils n'ont pas 2 mois de vacances scolaires. Tu as des tournées en plein juillet-août en salle. Chez eux, c'est une habitude. Quoi. Chez nous, non. Donc en fait, si tu veux faire des dates à ce moment-là, de toute manière, tu n'as pas le choix. Il faut être en festival. Mais le deuxième point, je dirais, moi, sur les festivals, c'est que l'enjeu, c'est aussi un enjeu de visibilité. Parce que ton artiste, il va jouer pas que des gens qui ont acheté leur place pour venir voir ton artiste.
Ils peuvent faire
parce qu'ils font confiance au festival, parce qu'ils ont, il y a tel ou tel artiste à côté qui ont suscité l'acte d'acheter une place. Et en fait, c'est un enjeu énorme pour nos artistes parce que c'est de la visibilité. Tu vas montrer ton artiste. Et si, pour rembobiner un peu la bande de notre discussion, t'as créé un spectacle qui tue, en fait, il va être impactant. Il y a plein de gens qui vont découvrir l'artiste ou des gens qui étaient juste un peu des sympathisants de l'artiste qui vont, en fait, vont se mettre à adorer ou des gens carrément qui étaient réfractaires et qui, en fait, ah, mais attends, en fait, je pensais pas que c'était ça et tout. La découverte, quoi. Et tu peux sortir d'un été, tu peux avoir des artistes en développement. Chez nous, on fait à peu près la moitié de nos dates en festival, donc c'est énorme.
L'année, la moitié, c'est fait.
De avril à septembre, tu vois, sur les festivals. Donc l'enjeu est monstrueux et souvent, c'est des accélérateurs de développement. Tu vois, je reprends l'exemple de Suzanne, mais c'était une des artistes les plus programmées sur les festivals d'été à ses débuts. Et elle sortait d'un été, elle avait joué devant 600 000 personnes en un été, tu vois. Donc elle avait marqué des points comme ça, et elle a fini par gagner une Victoire de la Musique, un disque d'or, alors qu'elle n'était pas diffusée en radio et pas vue à la télé, quoi. Donc tu vois, les festivals agissent aussi comme un média. Tu vois, c'est un vrai média, mais c'est le meilleur média du monde. C'est concret, quoi. Voilà. Tu passes une heure avec un artiste ou une demi-heure. C'est pas juste 3 minutes de train de TikTok ou de radio. C'est à l'artiste dans son entièreté.
On capte complètement l'intérêt, mais d'un point de vue purement économique, est-ce que c'est plus rentable, franchement, de faire des festivals?
C'est en équilibre, en fait.
Ça dépend. Tu parlais de coût de création. Ça dépend combien t'as mis dans ta création. Et si les festivals vont te permettre d'amortir ta création, une partie de ta création, souvent c'est le cas. Des fois, t'as parfois des petits coûts de réadaptation parce que ce qui marche en salle va pas marcher en festival. Mais oui, l'enjeu économique, il est important, clairement.
C'est marrant parce que la façon dont vous en parlez, on pourrait presque se dire que c'est vous qui payez pour passer vos artistes en festival, finalement. Enfin, ça pourrait arriver, ça, que...
Alors, sur des petits artistes où les offres de festival ne te permettent pas de couvrir ton coût de plateau, oui, littéralement, c'est ce qui se passe. Ouais. Tu payes pour jouer. Mais moi, j'appelle ça un investissement.
Voilà. C'est un peu le pari dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que forcément, au début de tes tournées, tu vas, au-delà de la création, entre guillemets, jouer à perte, en fait. Mais à un moment, il faut que l'artiste trouve son audience, trouve son public, et que ça rayonne au fur et à mesure. Et c'est ce qui permet ensuite d'arriver à un équilibre, de capter une audience plus grande, de faire des salles plus grandes, et donc de pouvoir aussi augmenter les prix de session à leur juste valeur.
Il y a toujours une prise de risque au début. Si tu attends de recevoir des offres qui vont parfaitement financer tous tes risques, attends toute ta vie parfois. Tu vois, c'est...
Mais en termes de l'attitude de ce que vous pouvez faire par rapport à une salle où vous bookez la salle pour un soir, c'est votre artiste, donc en fait c'est vos trucs que vous allez mettre en place dedans et tout va bien. Mais un festival c'est des plateaux avec des sets qui s'enchaînent, donc vous avez peut-être aussi moins de possibilités de tweaker la scène comme vous avez envie de le faire pour votre artiste.
Ah, tu adaptes tes sets complètement. Pareil, le temps de jeu n'est pas le même. C'est souvent 50 minutes, 60 minutes en festival. Donc à un moment, c'est comment tu reconstruis ton set pour qu'il soit cohérent, punchy, et qu'il soit adapté à cet écosystème de jouer devant 5, 6, 10 000 parfois personnes et plus dans un temps imparti et de capter.
Parce que c'est une exposition plus courte. Mais sur un public largement plus nombreux aussi.
Exactement. Ouais,
avec un cahier des charges différent. Mmh. Quand une tournée en salle, tu peux prendre 5, 6, 7 heures pour installer un spectacle.
Ouais, là, il faut.
Quand t'arrives le matin, en festival, t'as une demi-heure. Mmh. Donc, tu vois, il faut adapter des scénos, il faut penser à ça. Et souvent, d'ailleurs, les scénos ne sont pas les mêmes. Tu vois,
On a évoqué le fait que les festivals appartiennent à quelques grands groupes, bon nombre en tout cas de festivals. Donc, la question de la propriété des festivals. Il y a aussi la question de la propriété des salles. Parce qu'on a évoqué des salles. Je prends un exemple. L'Olympia, c'est le groupe Bolloré. Et le groupe Bolloré, c'est Universal aussi. Est-ce que ça signifie, par exemple, que...
Voldemort.
Il y a plein d'autres exemples. Jouer à Bercy, par exemple, c'est la mairie de Paris, mais avec AEG. C'est presque du moitié-moitié, en gros. Je crois que ça s'étend aussi à l'Adidas Arena. Je ne sais pas ce qu'il en est pour la Défense Arena, par contre.
C'est Live Nation qui vient de la racheter.
Bon, on voit tout de suite qu'il y a aussi...
Parce qu'ils ont des festivals, ils ont des salles aussi. Ils ont des salles.
Ouais.
Et là, pareil, oui, donc c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'intérêt, en fait. S'ils veulent que leur salle tourne, ils prennent tout le monde.
Bien sûr, tout le monde a
intérêt à bien s'entendre, en fait, en vrai, dans l'absolu.
Ça ne crée pas de difficultés particulières, le fait qu'il y ait des propriétés quand même, avec pourquoi pas des intérêts divergents parfois? Non.
On peut en débattre, tu peux faire de la philosophie par rapport à tout ça, mais nous, dans notre quotidien, je ne peux pas dire que ça crée de difficultés.
Il n'y a aucun truc où tu dis, si vous venez chez nous, vous ne jouerez jamais à Bercy.
Et à l'inverse, par contre, quand on est Universal, par exemple, est-ce qu'on peut dire à un artiste...
Tu joueras à Bercy. Signer,
on peut te mettre sur un Olympia un peu plus facilement? Alors, c'est peut-être pas aussi cash, mais...
Je suis même pas sûre que ce soit le cas, en fait. Pour le coup, c'est assez fair, quand même, dans la concurrence, on va dire.
C'est des business units qui sont encore assez espacés, assez éloignés.
T'es en première option, deuxième option, troisième option. Je pense pas qu'il y ait de...
Mais on voit quand même que cette concentration pourrait, à terme, donner lieu à des pratiques un peu... pas mafieuses, mais bon, on se comprend, quoi. Des trucs un peu de... tu joueras pas chez nous.
C'est vrai que d'un point de vue extérieur, c'est toujours. Je reprends l'exemple médiatique parce que c'est celui qu'on connaît le plus dans notre quotidien. Souvent, on s'inquiète, mais parce que c'est aussi la question de la pluralité des opinions.
Je pense qu'on a raison de s'inquiéter.
Bien sûr qu'on a raison de s'inquiéter.
Si demain, moi, je fais un morceau et je dis fuck Bolloré, il y a quand même une chance non nulle pour qu'on me dise, frérot, l'Olympia, ce sera pas pour Watt, tu vois. Et je trouve ça super grave en tant qu'artiste, tu vois, de se dire.
Oui, après, il y a plein de projets contestataires qui jouent à l'Olympia. J'ai l'impression, je comprends le fondement de l'inquiétude.
Ouais.
En réalité, je trouve qu'elle n'est pas tellement vérifiée.
Ouais.
Alors peut-être qu'à très long terme, tu vois, il y a des enjeux sur lesquels il faut garder un peu de réserve. Ouais. Mais objectivement, à court, moyen terme, dans notre quotidien...
Il y a un syndicat des producteurs de spectacles qui justement essaie de...
Ça s'appelle Ecosen. Ça s'appelait le Prodis avant, maintenant ça s'appelle Ecosen. Et on fait des trucs super au sein de ce syndicat. Nous, par exemple, on est engagé dans un projet qui s'appelle Matrice, où l'objectif, c'est de travailler, d'observer, de réfléchir et de changer nos façons de faire par rapport aux tournées, par rapport à l'impact environnemental. Voilà. Et d'ailleurs, dans ce projet, donc on est dans ce projet avec deux autres producteurs spectacles indépendants, donc Talent Boutique et Bleu Citron, et Live Nation. Et c'est super. C'est super de les avoir avec nous, d'interagir, de réfléchir à ces questions. C'est clairement grâce au syndicat, grâce à Ecosen qui a impulsé ce mouvement et qui nous permet de commencer à nous emparer collectivement d'un sujet qui va devenir, s'il ne l'est pas déjà, plus que vital.
On va en reparler.
C'est-à-dire, Live Nation, ils font des trucs un peu genre pour l'environnement et à côté, il y a Jules qui arrive en hélicoptère.
Des artistes qui ont des bilans carbone déplorables, tu vas en trouver chez tout le monde. Et Live Nation aussi, à son endroit, peut changer des façons de faire et ils sont déjà en train de le faire, tu vois. Donc,
la tendance, si je puis dire, du marché globalement de la production de spectacle. On est plutôt dans une tendance à la multiplication des acteurs, des nouvelles boîtes qui arrivent, etc. Ou au contraire, il y a plutôt des boîtes qui ferment et tout. C'est un marché qui se porte bien, si je puis dire, globalement, à votre connaissance?
J'ai toujours tenté de répondre oui et non. Le marché se porte bien, oui, parce que les dernières tendances de remplissage, de billetterie, les indicateurs sont bons. Par contre, c'est un secteur sur lequel les seuils de rentabilité sont très faibles. Je crois que la marge moyenne, c'est 1%.
C'est vrai?
Ouais. Ah ouais. Parce que en fait, on a des coûts de production qui explosent. On a eu une très très grosse inflation sur les coûts techniques, sur plein de trucs. Et là, en ce moment, tu vois, à cause de ce qui se passe au Proche-Orient, au Moyen-Orient, on a des choses qu'on n'avait pas vu venir, mais sur le coup des tourbus avec l'explosion du prix de l'essence, tu vois. Donc, on a des surcoûts.
Van, tout ce qui est lieu.
Et du coup, génial, je reviens au projet Matrice, tu vois, d'où l'intérêt de réfléchir à des moyens décarbonés, etc. Mmh. Mais tout ça ne va pas se changer du jour au lendemain. Oui, ça se porte bien parce qu'il y a une vraie appétence des gens pour le spectacle vivant, c'est certain. Je pense qu'on offre un des derniers havres de paix qui existe, Digital Detox, où les gens peuvent vivre un vrai moment dans leur vie avec un artiste où t'as pas la gueule devant ton écran du matin au soir.
Encore que... Ouais, en concert.
Ouais, mais quand même, je pense que plupart des cas, les gens ils.
Puis c'est le être ensemble aussi en fait. Le être ensemble. Ça c'est quand même très important aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est rassembler différentes typologies de personnes au même endroit qui sont là pour la même chose. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quand même des moments rares et précieux.
Et tu sens que les gens ils sont en besoin de ça, en manque de ça, en quête de ça, et donc ça se passe bien. Mais on a plein de problématiques. Ça coûte archi cher. Faire du développement, c'est prendre des risques. Je ne sais pas quel est le taux de transformation dans le marché. Quand tu signes 10 projets en développement, combien il y en a qui marchent à la fin? Je serais tenté de dire 1 ou 1,5, tu vois. Donc ça veut dire que tu en as 8 ou 9 qui vont pas fonctionner. Et donc, qui vont nécessiter de l'investissement à perte chez nous, tu vois.
Mais un qui ne fonctionne pas, c'est à partir de quel moment c'est considéré comme un échec? Puisqu'on a vu tout à l'heure, t'expliquais qu'il y a un artiste, ça a pris 8 ans pour qu'il arrive sur des salles, je veux dire, prestigieuses, même si je sais pas de...
Pas Julien Garnel,
de qualitatif.
Et il y a une rentabilité, de fait.
Ouais. Tu vois, mais du coup, comment est-ce que vous considérez que, là, c'est vraiment un flop, ça ne marche pas? C'est quoi, c'est à partir de la 10e date où ça ne remplit pas?
Il n'y a pas de repère précis.
C'est différents marqueurs, je pense.
Ouais, quand tu as tout essayé, qu'au bout d'un moment, tu n'as plus une seule date qui arrive, que tout le monde est démobilisé, que tu vois bien que toi, tu y croyais, mais qu'en fait, tu étais le seul à y croire, qu'en fait, il y a le truc un peu irrationnel qui fait qu'en fait, l'artiste n'a pas produit une fan base, commencé à fédérer des gens et tout ça. À un moment donné, tu vois, voilà. Moi je dis souvent aux équipes et aux artistes, et on réussit pas tout, mais par contre, je veux pas qu'on ait de regrets à la fin. Donc, je veux qu'on donne tout pour nos artistes, je veux qu'on se batte, qu'on puisse se regarder dans la glace à la fin d'une campagne et se dire que ça ait marché ou pas, franchement, on a tout essayé, tu vois. Et après, c'est l'artiste qui, quelque part, je vais faire une parabole un peu sportive, mais c'est aussi l'artiste qui gagne son match ou pas. Et il y a des moments clés pour ça. Alice, tout à l'heure, tu parlais des tremplins, donc des dispositifs d'émergence, tu vois, il y a les Inouïs, il y a le Mama, il y a des festivals où il y a plein de pros qui viennent, et tes artistes qui vont réussir ce truc. Ce jour-là, ils te sortent un putain de concert. C'est mortel. Tu fédères tout le monde. Et il y a des artistes, ils vont être transis par le stress, ils n'ont pas assez bossé, ils arrivent.
Il y a la performance, quoi.
Ouais, et c'est juste pas terrible le jour J. En fait, tu peux avoir du mal à t'en remettre aussi, quoi. Tu vois, donc voilà.
Dur. Alice Chekar, en bas, est-ce que vous discutez ça parfois, justement, de la spécificité du spectacle vivant dans un contexte où l'économie de la musique, elle n'est pas toujours évidente où, tu vois, enfin, genre le disque, on sait que c'est compliqué. Le stream, c'est compliqué. Vous vous dites, on s'en sort bien dans le spectacle vivant, qu'est-ce que...
Non, nous, bien sûr, on y réfléchit beaucoup, tout le temps, sur chaque signature, sur les investissements, sur comment on accompagne tel ou tel projet. Ça fait partie des réflexions globales, structurelles et avec toutes les équipes. Enfin, tu vois, c'est pas que avec les bookers. On en discute beaucoup avec l'équipe prod, billette, com, admin. C'est une réflexion générale. on a, je pense que comme W, nous on est vraiment indépendant et pluriel, donc on a vraiment une diversité d'artistes. On va de la chanson au rap. Après, on a aussi un pôle spectacle, comme tu le disais tout à l'heure, où là on va faire de l'humour, de la conférence. Là, on vient de lancer une exposition, par exemple. Donc, ce sont c'est très 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 varié, et on fait partie des acteurs de la musique. On fait beaucoup beaucoup de développement, donc forcément se pose cette question à un moment de structurel de break d'artistes, d'investissement, de choix.
Est-ce que vous vous dites par exemple que globalement le futur, le live devrait être épargné, tu vois, des changements notamment numériques, technologiques, etc., qui vont pas toujours dans le sens d'une juste rémunération? Vous avez l'impression d'être préservé?
Non, pas préservé, mais je pense qu'il faut avoir en fait, par exemple, tout le monde parle de l'IA en ce moment.
Ouais.
L'IA, peut-être dans la musique, ou en tout cas dans la création, dans la composition, va devenir un outil. Mais comme on disait tout à l'heure, rien ne remplacera un public qui se retrouve et qui vient voir un artiste et qui vit une expérience et qui vit un moment partagé. Donc voilà, ça, en fait, c'est ça. Je pense que ça a toujours existé et ça existera toujours.
Ça, c'est vrai. Et en même temps, les pratiques culturelles, par exemple, des gens évoluent en fonction des moments dans une société, etc. Et à un moment, on sort plus. D'autres moments moins, etc. Enfin, il y a un vrai truc aussi, peut-être une forme de pédagogie pour amener les gens à aller voir des spectacles, j'imagine. Ce qui est le rôle avant tout des pouvoirs publics, pareil, enfin, idéalement.
Ouais, tu vois, comme disait Simon tout à l'heure, il n'y a jamais eu autant d'appétence pour le live, au sens large du terme, c'est-à-dire sur les sorties extérieures. Nous, on le voit sur les billetteries, sur les remplissages. En tout cas, à ce niveau-là, c'est positif. C'est ce qu'expliquait tout à l'heure Simon.
Ouais. L'impact émotionnel, il est fabuleux. Tu vois, moi, par exemple, j'ai des enfants, j'ai des ados. Je vois, ils vivent leur premier concert et tout. C'est des chocs émotionnels. C'est fabuleux, quoi. Tu vois, et ça les sort des réseaux sociaux, des trucs, des machins.
Et sur la qualité du moment, oui. Mmh. Mais n'empêche qu'on dit justement qu'aujourd'hui, face à un Netflix à la maison, par exemple, il est difficile, je prends l'exemple du cinéma, il est difficile d'aller mettre les gens en salle.
Tu regardes un concert à la télé, c'est vraiment pas pareil. C'est pas du tout la même expérience. Aujourd'hui, quelque part, aujourd'hui, par rapport au cinéma, qui pour le coup est une autre industrie, c'est sûr que t'as un rétro proche chez toi, t'as un mur blanc comme il y a derrière là. Tu es bien. Ouais. Donc je pense que c'est deux secteurs et deux, on va dire, j'aime pas ce terme, propositions de consommation, tu vois, différentes. Pour moi, n'ont rien à voir.
On vend aussi, pareil, je détestais cette phrase, mais on vend des émotions. Enfin, tu vois, il y a un truc au même titre que tu as, par exemple, moi je suis passionné de basket, je vais voir des matchs de basket à l'Adidas Arena, mais je kiffe, quoi. C'est pas la même sensation que de rester chez soi devant son écran, quoi, tu vois. Il y a un truc de. Et ça, ouais, en ce sens-là, j'ai l'impression qu'on est préservé.
Et dans ton travail, par exemple, avec W, tu disais qu'il y avait aussi un pôle communication. Est-ce qu'il y a vraiment une réflexion sur comment on donne envie aux gens de venir à nos concerts, mais même aux concerts de manière générale, quoi.
Sujet qui m'intéresse beaucoup et qui, je pense, a longtemps été un peu maltraité par les producteurs de spectacles. Et pour le coup, c'est un sujet sur lequel on a vachement musclé le jeu chez W Spectacle sous mon impulsion, parce que je pense que c'est vital d'avoir un bon accompagnement là-dessus, de pouvoir événementialiser les annonces de tournées, les annonces de dates parisiennes. Moi, par exemple, je vais à peine exagérer dans ce que je vais dire, mais je pense qu'un artiste qui annonce sa date parisienne, c'est presque aussi important que s'il sortait un nouveau single.
Ah oui, ouais. D'accord.
Et t'as mille façons d'annoncer une date. Il y a des façons qui sont vertueuses, qui font que tu vas vendre plein de billets. Et il y a des façons qui sont pas bonnes pour moi.
Tu peux prendre quelques exemples?
C'est pareil.
Pratiques à éviter ou les bonnes pratiques à l'inverse?
En fait, aujourd'hui, je pense que le truc de sincérité, du message qui paraît pas trop commercial, trop pub, tu vois, mais de vraiment de proposer un contenu, souvent ça peut être une vidéo, tu vois, où tu vas annoncer ton retour sur scène, y a des contenus qui sont super bien faits, qui vont être remarqués par tout le monde, parce que c'est créatif, parce que tu sens qu'il y a eu de la réflexion, qu'il y a eu un investissement, et du coup, il y a une promesse qui est faite. Et ça va générer une envie des gens, tu vois, d'acheter une place. Alors évidemment, quand t'es un mastodonte, t'as même pas besoin de faire ça. Enfin, je veux dire, quand la seule question c'est en combien de minutes tu vas être complet, t'es pas obligé de te prendre la tête là-dessus. Mais moi, je parle de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire le développement d'artiste. Eh ben, il faut aussi faire preuve de créativité dans ces moments-là. Et pour faire preuve de créativité, il faut avoir des moyens, il faut avoir des équipes, il faut réfléchir à tout ça. Et comment tu relances aussi de la communication autour d'une date, comment tu fais vivre ta billetterie de façon à la réussir, quoi, tu vois.
Et les canaux de diffusion de cette communication,
justement. C'est là où c'est génial aussi, c'est que par rapport à il y a 15, 20, 25 ans, les réseaux sociaux, tu vois, fabuleux. Les fans sont vachement sur Instagram, alors, en fonction des publics plus ou moins jeunes, tu vas aussi avoir d'autres réseaux sociaux. Nous, on bosse vachement sur Instagram, c'est le truc qui est le plus englobant, tu vois. Et t'as mille façons de faire.
Et les médias traditionnels ont encore quand même une place dans l'annonce, par exemple, d'une date?
Oui, enfin...
Sur l'annonce d'une date...
Ça dépend quelle date, ça dépend tout. Si tu annonces un Stade de France, peut-être que tu as envie de que le Parisien relaie, quoi, tu vois. Si tu annonces une maroquinerie, peut-être que c'est moins vital. Mais ça, c'est pareil, c'est génial.
Il y a moins d'espace, malgré tout, dans les médias plus traditionnels.
Pour parler de ça, c'est pas leur intérêt, c'est un peu moins leur intérêt, ouais.
Bah, en tout cas, les médias traditionnels, c'est pas les médias qui se portent le mieux, aujourd'hui. On connaît les difficultés de la presse, de la radio, de la télé, tout ça. Et à l'inverse, il y a plein de médias sur Instagram et tout ça qui se développent, il se passe plein de trucs. Puis il y a plein de prescripteurs, de prescriptrices aussi, tu vois, même sans parler d'influenceurs, mais tu vois, de gens qui répandent aussi la bonne parole. Et donc il y a plein d'opportunités aussi. Il faut être connecté avec ces médias parce qu'ils ont un rôle à jouer dans la réussite.
Votre Polcom, par exemple, il va approcher des Instagrammeurs et des Instagrammeuses en leur disant « on te propose une place de concert, tu nous fais une petite story, c'est cool ».
Ouais, alors un Instagrammeur, ça va être un média, tu vois, je dis n'importe quoi, sortir à Paris, sortir à Nantes, tu vois, des choses comme ça.
Des places à gagner pour vos followers.
Et moi, j'ai même embauché un attaché de presse, tu vois. On a même un attaché de presse qui s'assure d'avoir une bonne médiatisation de l'annonce de nos tournées, tu vois.
Mais nous, ça, par exemple, on va avoir des attachés de presse par projet, entre guillemets, tu vois, sur certains artistes, certaines tournées, on prend le relais à un moment du label. Donc, effectivement, ça fait partie des stratégies qu'on peut mettre en place. Et puis après, ça va être des partenariats avec tel ou tel média, avec des médias Insta, effectivement, comme tu disais. C'est pas tant des influenceurs ou influenceuses que
des médias qui fédèrent avec une communauté.
Exactement.
Okay. Mais il y a mille trucs à faire. Nous, on travaille avec les plateformes de stream aussi pour faire des préventes exclusives avec les fans. Enfin, et ça, je trouve que c'est un bon exemple de la structuration du secteur dans lequel on agit par rapport à il y a peut-être 15, 20, 25 ans, tu vois, où on n'était pas encore aussi bien organisé, je trouve.
Tu dis que tu travailles avec les plateformes de stream. Ça m'évoque un autre sujet. Alors, Daz, il a évoqué à un moment la question de la data. Parce que, par exemple, on sait qu'à travers les plateformes numériques de manière générale, notamment les plateformes de streaming, on peut savoir, par exemple, s'il y a des auditeurs à tel endroit dans le monde, quel âge ils ont éventuellement, dresser une espèce de typologie des auditeurs, ce qui peut avoir un intérêt ensuite pour construire des tournées, en disant sur ce territoire, peut-être qu'il n'y a plus d'auditeurs, et donc potentiellement plus de gens qui viendront.
Spotify te dit carrément, à Tokyo, il y a 1500 personnes qui écoutent cet artiste tous les jours.
Donc ça m'amène à deux questions, et j'aimerais bien avoir vos avis à tous les deux. C'est de un, est-ce que vous utilisez ces données? Et de deux,
Est-ce que c'est gratuit d'utiliser ces données?
Exactement, parce qu'elles appartiennent quand même à des plateformes, à des acteurs du numérique, qui souvent monétisent d'ailleurs la data, l'information, etc. Donc est-ce qu'il y a des défis autour de ça, quoi?
En tout cas, il y a un enjeu, ça c'est certain. C'est des sources d'infos qu'on n'avait pas dans le monde d'avant. Il y a plein de données qui sont publiques ou qui sont, enfin, dont il est légal d'obtenir, l'obtention est légale,
c'est ouvert de payer.
T'as plein de logiciels et c'est possible de le faire. Et nous, on le fait vachement. On le fait vachement, effectivement, tu vois, pour prioriser les villes.
C'est Caramba aussi, vous utilisez.
Ouais, nous, on le fait principalement. Il y a quelqu'un qui a signé ça. Sur des artistes plus en développement, où t'es un petit peu plus à tâtons au démarrage. C'est-à-dire que tu vas signer, c'est sûr qu'un artiste, au début, tu vas te dire, je vais aller dans les villes A pour déjà voir dans les grandes agglos, quel est le bassin de public, est-ce que ça fait un 200, un 300 places. Donc on a tous un peu des salles REF, on va dire, Lille, Lyon, Nantes, Bordeaux, Toulouse, où on va déjà un peu avoir certains marqueurs. Donc c'est sûr que je pense qu'aujourd'hui on s'en sert tous. En tout cas, on ne prend pas conscience infuse.
Vous avez quelqu'un par exemple qui est chargé chez vous de dire, moi je suis en contact avec Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Je récolte les datas, après je vous en parle, je vous fais un petit résumé.
Non, pas du tout. Nous, je sais pas, on bosse, je crois qu'on est avec Soundcharts. Enfin, tu vois, on a un accès et on...
Oui, c'est une espèce d'agrégateur.
Ouais, c'est ça, exactement. C'est un agrégateur.
Tu peux demander au label aussi, tu vois, de l'artiste, tu vois, de te donner un petit peu, les 20 villes dans lesquelles l'artiste est le plus écouté, le classement, tu vois.
Et ça, vous le payez, Soundcharts, par exemple?
Sincèrement, aucune idée.
Sound chart, oui, c'est payant.
Ouais, c'est payant.
Ouais. Ouais, c'est parce que je parlais d'économie autour de la data tout à l'heure et du fait que voilà. Bah, mais...
Bah après, ce qu'on avait dit tout à l'heure aussi, c'est que parfois, tu pouvais avoir un rayonnement et une appétence théorique sur les réseaux qui finalement se traduit pas réellement, se transforme pas en foot trafic dans ta salle.
C'est ce que dit, Alice a beaucoup insisté en disant que c'est seulement un des éléments, qu'il y en a plein d'autres, effectivement.
Il faut surtout pas se baser que sur ça. Il faut croiser plein de trucs. Moi, nous, bah, j'ai un logiciel aussi pour regarder ce qui se passe en radio et en télé. Tu vois,
ça s'appelle comment ?
Musicast, tu vois. C'est un truc officiel dont tout le monde se sert, hein, tu vois. C'est, oui, avec un abonnement payant, mais ça permet de vérifier, en fait, effectivement, l'audience radio-télé de tes artistes, quoi.
D'accord, il te met en relation en fait les passages.
Ouais, il te dit combien il y a eu de passages sur France Inter la semaine dernière, sur Europe 2, sur.
Et puis ça te permet de voir si ta billetterie a bougé ou pas,
le classement des radios, des télés, des passages télé.
Ah oui, comme ça tu peux voir si ta billetterie bouge au moment où l'artiste passe sur France Inter, tu te dis ok.
En tout cas, c'est des indicateurs en fait. Et pareil pour essayer d'affiner ta com, à qui tu t'adresses, comment, à quel moment, tu vois, quels sont les moments clés dans la promo, soit d'un album, soit d'une tournée. Voilà, ça permet en fait toutes ces réflexions.
Ça t'est déjà arrivé, Alice, de te planter sur un artiste? C'est-à-dire, tu sais, il y avait plein d'indicateurs qui étaient hyper positifs, et puis en fait, bah, ça remplit pas. Et t'as su pourquoi?
Parce qu'il avait triché. Parce qu'ils ont acheté des streams.
Ils avaient acheté des vues. Ouais, bien sûr, c'est arrivé. Et je pense que c'est arrivé à tout le monde. Où t'as des projets auxquels tu crois. Et puis finalement, la sortie d'album ou de single ne se passe pas comme tu le souhaites. Le public s'empare pas du projet, s'empare pas de l'artiste.
Il y a des enseignements en tirés parfois de ça. Tu vois, un truc qui te marque dans ta carrière.
N'achetez pas des vues.
Non, moi, je sais que. Un enseignement que j'ai tiré, c'était il y a longtemps, on a signé une artiste qu'on n'avait pas vue sur scène. Et en fait, je me suis promis, ça ne serait plus le cas. parce qu'en fait, on fait du live et au final, l'artiste en question, était pas forcément prête ou en tout cas.
Mais ça fait pas partie du développement justement.
Ça fait partie du développement, mais en fait, aujourd'hui elle fait plus de musique parce que je pense qu'au final ce n'était pas sa place et elle le dit aujourd'hui.
C'est intéressant, ça met de la nuance.
C'est aussi ça.
Et là, ce qui est chouette, c'est que c'est une différence, tu vois, entre Alice et moi et donc peut-être en tout cas en BW Spectacle, c'est que nous, des artistes qu'on n'avait jamais vus sur scène, on a signé plein. C'était une majorité. Tu vois, donc c'est des visions différentes et les deux se valent et les deux. Ouais. Tu vois,
après, je dis pas qu'on le fait plus. Moi, je sais que en tout cas, quand j'ai un doute dont la manière va être sur scène, est-ce que c'est une appétence, une envie, j'ai besoin d'avoir parce que j'avais été assez marqué au final.
Ouais, je comprends. Ouais. Ouais.
Bah, c'est sûr que j'imagine.
J'étais jeune, c'était il y a longtemps.
De pas avoir un live parfaitement maîtrisé quand un artiste en développement, c'est logique. Par contre, se dire que on peut percevoir sur quelques dates, même si on sent qu'il n'est pas prêt, il y a plein de trucs qui ne vont pas et tout, mais il y a un petit truc. Ça, je pense quand même que c'est un truc d'instinct. Voilà.
Là, par exemple, l'artiste dont je parle, tu sentais qu'elle était gênée sur scène. Ouais. Tu vois, c'était... Donc en fait, c'est un moment où tu te dis, je n'aurais pas été, parce que tu sais que malgré les échanges, malgré le travail, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas naturel pour la personne au final.
Ça se... Parce que par exemple, si je reprends...
Et c'est rare, hein, donc c'est vraiment... Ça m'arrive une fois et ça, c'est rare.
Si je prends une certaines scènes, notamment rap par exemple, bon, c'est pas tu vois, les rappeurs sur scène, les rappeuses mieux que les rappeurs, mais généralement c'est un peu éclaté au début, tu vois.
Moi, en tout cas, ça dépend des époques. Dans le rap, il y a eu des époques
Le 113 sur scène, c'était une calamité. Heureusement, il y avait des bagnoles, des machins, 30 mecs sur, tu vois, pour essayer de peupler le truc, parce que sinon c'était horrible. Mais même PNL, tu vois, en fait, moi je les ai vus au palais de Tokyo. Bon, bah, c'est deux mecs en survêt qui font des allers-retours. Tu vois, t'es là, tu fais ouais. Alors, j'attends pas à ce qu'ils fassent une coupole ou des trucs de fou, mais.
J'ai pas eu de très bons échos sur les stades de France de Booba aussi, par exemple. Ça dépend des publics. Est-ce que t'attends de ces lives
Est-ce que c'était le son du CD ou pas?
Alors, justement, c'était Booba qui parlait de ça, qui disait moi je veux le son du CD, tu vois. Et je me disais, mais il a tort.
Mais de toute il travaille pas à ces lives, il le dit lui-même et qu'il se prépare pas particulièrement pour ces lives.
Bon. Ouais, mais du coup. Ce que je sais, c'est que entre le 113 qui fait Tonton du Bled aux Victoires de la Musique et le 113 après qui fait des scènes, on a vu quand même une progression, ouais, tu vois. Pareil pour PNL. PNL qui commence et qui fait des trucs un peu... Bon, alors, il y a une grosse scéno, machin, beaucoup de moyens, et du coup, ça transcende le truc. Mais ça veut dire que, aussi, bah, les artistes apprennent et s'améliorent, tu vois.
Et heureusement.
Tu te rends compte le nombre d'artistes qu'on a reçus, avec qui on a discuté de la préparation physique et mentale, par exemple, pour les tournées. La santé mentale, évidemment, de se préserver vis-à-vis de tout ça, même aussi de préserver son physique, parce qu'en fait, c'est hyper rude des tournées.
En plus,
c'est là sous Miel de montagne, je pense, vraiment, les derniers épisodes, qui nous disaient, mais...
Bah, lui, fait, il a failli canner, donc...
Je me suis mis au sport, parce qu'en fait, sinon, j'arrive pas à tenir. C'est pour ça que je mettais une petite Abouba, etc., qui avait dit, je me suis pas préparé physiquement particulièrement pour mes stades de France. Tu vois, il dit, oh, de toute façon, moi, je suis sportif, je vais à la muscu, etc. Non, mais c'est pas pareil, enfin, tu vois,
Bon, après, lui, il a un peu de bouteille, quand même, tu vois.
Ouais, bah, je peux te dire que des gens y ont été et j'ai pas eu les très bons échos sur.
Ouais, mais tu vois, moi je suis allé au Stade de France voir Beyoncé. Ouais. Bon, bah voilà.
Mais elle court, à mon avis, elle, par contre.
Non, mais alors, ok, donc, mais, tu vois, je veux dire, t'as le show au sens. C'est limite si t'as pas la patrouille de France qui passe au-dessus. Mais moi, c'est pas ça que je veux voir.
Mais après, c'est des trucs de goût, t'as raison. Ouais, mais en tout cas, il y a du travail, quoi. Je pense qu'elle bosse.
Oui, après, elle taffe, mais c'est une machine, tu vois. Mais bah, des fois, tu te dis, ouais, là, je serais pas contre, finalement, t'enlèves 200 personnes de la scène, tu t'assois sur un tabouret, et puis tu chantes.
Mais ça, après, c'est des approches esthétiques et des goûts. Ouais. C'est vraiment, par contre, il y a un moment où il y a le travail, ça se voit ou ça se voit pas, quoi.
Il y a un truc qui est sûr, c'est que ouais, les artistes qui réussissent, c'est ceux qui bossent énormément. Ouais. Et dans la plupart des cas, ceux qui ont échoué, ils ont pas assez bossé. Ça, c'est clair. Ouais, c'est...
Ah mince, on finit sur une note méritocratique.
Il y a un moment où...
Ah
mais
désolé. Il peut y avoir des accidents, non ? Des gigantesques branleurs qui...
Mais les gigantesques branleurs te font croire que ce sont des gigantesques branleurs. Ah, oui. En vrai, il y a du taf. Ouais.
On a parlé tout à l'heure des aspects économiques en disant que ça va plutôt bien. On avait évoqué le fait qu'il y avait les subventions, elles allaient surtout aux salles, etc. Vous n'étiez pas touché directement. Par contre,
tout petit quand même, on bénéficie aussi de subventions en tant que producteur de spectacle et on a aussi de la chance d'être aidé par le Centre National de la Musique essentiellement, un peu la DAMI, certaines sociétés civiles et tout ça. On bénéficie du crédit d'impôt spectacle qui est devenu vital à notre activité.
Et c'est là où je voulais en venir. Ouais. Parce que ce crédit,
je l'avais nommé tout à l'heure.
Ce crédit d'impôt, ah, pardon, ça m'avait échappé. Ouais. Ce crédit
moi, non,
d'impôt,
je l'avais entendu.
Si je dis pas de bêtises, en 2027, on arrive au bout du deal initial en tout cas. Ça va être renégocié, rediscuté, je sais pas. Ça, par exemple, c'est un truc qui peut potentiellement embêter la filière, qui doit inquiéter.
Chaque crédit d'impôt, que ce soit dans la musique enregistrée, dans le cinéma, dans la recherche, a un temps pas indéfini, il me semble pas. En tout cas, enfin, je pense que souvent il y a un horizon.
Là, et à chaque fois, c'est combien de temps là sur
c'est renouvelé tous les 3 ans, il me semble. Okay.
Et c'est un dispositif qui est devenu vital à la filière. Enfin, je veux dire, il y a énormément de producteurs de spectacles qui se sont structurés. En grande partie grâce à ça, ça nous permet d'embaucher des gens, de prendre des risques, parce qu'en fait, ça concerne surtout les projets en développement. C'est vital, et on va se battre pour le défendre. On parle aussi d'exception culturelle française, d'indépendance. Il y a beaucoup, beaucoup d'enjeux, en fait, qui sont liés à ça. Et si on veut pas, effectivement, à la fin, que tous les artistes soient chez des multinationales...
Qu'il n'y ait plus de diversité, par rapport au développement, de prise de risque.
Il faut absolument éviter la remise en question de ces dispositifs qui sont au centre de la façon dont on a structuré nos économies et nos activités. Quoi.
Ça veut dire que ça exige aussi un travail, par exemple des syndicats, mais autre aussi de lobbying, entre guillemets, pour défendre les intérêts auprès des politiques, parce que ça se passe comme ça aussi.
Bien sûr. La culture.
Mais je crois que les audits sont en ce moment, de savoir quelle est la valeur aujourd'hui du crédit d'impôt, l'intérêt... j'ai une notion qu'il y a quelques producteurs de spectacles qui sont questionnés. Luc chez nous, Luc Goréchon, va participer à ces discussions, par exemple.
C'est là où c'est important d'avoir quelqu'un qui pèse, entre guillemets, quelqu'un qui est depuis longtemps identifié, qui a les bons interlocuteurs pour.
Et puis je répète aussi qu'on a un syndicat qui bosse très dur et qui est très puissant et qui nous aide aussi à défendre nos intérêts, quoi. Avec tous les acteurs, tous les adhérents qui se battent aussi pour défendre nos droits sur le crédit d'impôt, mais pas que, sur plein de sujets, sur la billetterie, sur l'environnement, on en a parlé. Il y a énormément de sujets qu'il faut défendre.
Sur l'avenir, il y a aussi la question de la diversification. Alors il y a le modèle 360, le modèle 360 que vous avez adopté avec W Spectacle, c'est vraiment l'idée d'avoir éditeur, producteur, tourneur, tout ça vraiment intégré au sein d'un même écosystème, même si on a compris que c'était aussi ouvert vers l'extérieur. on imagine bien l'intérêt qu'il y a derrière tout ça. C'est-à-dire que, bah, on sort un album, on peut tout de suite discuter. En fait, c'est une question de dialogue. J'imagine que ça facilite le dialogue. Parce qu'il peut y avoir plein d'entités différentes qui fonctionnent entre elles. Mais est-ce qu'on arrive à bien communiquer? C'est pas toujours évident. Quand c'est en interne, j'imagine qu'on communique plus. C'est ça le
oui,
truc?
Oui, en fait, il y a un enjeu énorme. C'est la qualité de la relation entre le label et le producteur de spectacle, qui souvent sont les deux partenaires sur le long cours d'une campagne pour un artiste qui vont être le plus dans l'opérationnel. Voilà. Et donc, il y a un enjeu de la virtuosité de la collaboration entre les deux. Et c'est vrai que nous, le fait d'être sous le même toit que tous les labels de Wagram, ça nous a vachement appris de leur travail. Je pense qu'on l'aura aussi appris du nôtre. Et en fait, on s'aperçoit... Et d'ailleurs, ce truc-là, on le cultive aussi à l'extérieur, avec d'autres labels avec qui on travaille, qui ne sont pas dans le groupe Wagram. Moi, je suis archi intéressé par ce qui se passe côté label. Par leurs problèmes, par leurs stratégies, par leurs enjeux et tout ça. Et donc, vraiment passionné de décrire des stratégies ensemble, tu vois. Sur des trucs qui ne coûtent pas d'argent. C'est juste, souvent, c'est du timing. C'est à quel moment tu sors ton nouveau single, à quel moment tu annonces ta date parisienne, à quel moment tu annonces ta tournée, à quel moment l'album sort. Comment les choses s'imbriquent, en fait. Et il y a des timings qui sont bons, il y a des timings qui sont destructeurs. Voilà, et évidemment, il peut y avoir des investissements communs, il peut y avoir plein de trucs, mais ce truc-là est vital, quoi. Donc, un artiste, quel que soit son choix sur le dispositif final, il y a un truc dont il faut qu'il s'assure, qu'il ou elle s'assure, c'est que ces deux partenaires vont bien s'entendre, voilà, et que ça va communiquer, qu'il va avoir... Voilà. Ça, c'est super important.
Alice, vous, dans la communication que vous pouvez avoir avec les labels, alors vous avez en plus, c'est pas intégré dès la base comme W Spectacle, qui naît en fait dans l'univers Wagram, vous avez quand même monté un label chez Caramba aussi. Mais avant de parler de ça, déjà, votre relation avec les labels, effectivement, comme dit Simon, vous aussi, c'est au cœur de votre travail quotidien, c'est essentiel. Alors,
je pense que c'est moins quotidien parce que on n'est pas sous le même toit. Par contre, effectivement, c'est essentiel d'avoir des partenaires avec qui on s'entend bien, on a la même vision et avec qui on échange de manière régulière sur les momentum, sur les moments clés. Voilà. Mais après, effectivement, je pense que les échanges et la communication peuvent être potentiellement un peu moins régulière que W avec les équipes Wagram. Mais ça, c'est des partenaires essentiels.
C'est l'avantage aussi du 360, c'est aussi tout ce qui est informel. C'est, tu vas croiser un attaché de presse qui dit, au fait, on t'a pas dit, mais on a confirmé telle émission de télé. Puis une heure après, ben, t'es au téléphone avec les vieilles charrues, au fait, je t'ai pas dit, mais ils vont faire cette émission de télé. Enfin, tu vois, c'est des trucs comme ça où ça fluidifie aussi le partage d'infos et ça nous permet de parfois mieux développer les projets aussi, quoi.
Et sur, par contre, le label que vous avez monté au sein de Caramba, c'est quoi l'idée? C'est un peu justement, on s'inspire du 360 que font certains, ou c'est une autre philosophie
En fait, c'est un label qu'on avait monté, je crois, 12-15 ans, enfin, je pense, hein, quelque chose comme ça, mais, qui j'ai l'impression préexistait à mon arrivée, donc c'est pour ça que je le situe à cette période. Mais au final, aujourd'hui, on le remet en marche, c'est plutôt une boîte à outils. Il y a beaucoup de jeunes artistes, d'artistes en développement qui deviennent indépendants. Effectivement, c'est un mot qu'on utilise beaucoup. Mais en tout cas, qui se structurent eux-mêmes, qui produisent leurs albums, qui, en tout cas, pour les premiers EP, premiers albums, ne vont pas forcément signer en label. Et donc, nous, on le voit plutôt comme une boîte à outils pour accompagner principalement, on va dire, les artistes en développement qu'on va signer et qui ont besoin à un moment d'un dispositif.
Donc, si je comprends bien, c'est vous avez repéré.
Mais on n'a pas velléité. L'idée, c'est pas de devenir un Wagram Warner, enfin un label. Voilà, ça va être plutôt une boîte à outils.
Vous avez repéré un artiste que vous trouvez prometteur pour le live, avec qui vous avez envie de travailler. Quand même, globalement, c'est bien d'associer du live avec des sorties, quand même, avec des releases, disques, etc. Et donc, vous dites, on a cette possibilité, on peut offrir à l'artiste.
Exactement.
Okay. Je capte. Et sur la diversification, qui est encore autre chose que le 360, c'est-à-dire de dire, bah, ok, la musique c'est notre cœur de métier, mais on va faire d'autres trucs.
Bah, ils font d'autres trucs.
Mmh. Ouais, justement, parlons-en.
Du spectacle, de l'humour, de...
Ouais, effectivement, chez Caramba, il y a une branche spectacle qui existe depuis très longtemps. Hein. Par exemple, on a le Slava Snow Show, qui est un projet, un spectacle historique, c'est plutôt du clown. On a travaillé avec des conférenciers, on travaille avec de l'humour. Là, on a une exposition...
C'est à la Villette, c'est ça?
Ouais.
Exposition, c'est sur quoi?
Sur le Japon.
Ouais.
C'est une grosse exposition.
Ouais, c'est une grosse expo. Et effectivement, c'est un pôle en soi, à part entière. Il y a une envie de diversification.
C'est une réalité économique qui vous mène à ça ? Parce que votre cœur de métier, c'est la musique. Comment on se retrouve à faire une grosse expo à la Villette sur le Japon, tu vois, alors qu'à la base, on travaille dans la musique, c'est...
Je pense que l'intégration aussi de différentes personnes qui ont des envies, des savoir-faire et qui ont envie à un moment donné d'aller travailler sur d'autres domaines.
Alors, à l'inverse, ça veut dire que potentiellement un ride d'exhibition qui fait genre, je sais pas moi, Japan Expo, il pourrait décider de faire des concerts, finalement. ça sera accueilli dans le milieu. Ça peut arriver qu'un acteur qui était sur d'autres choses se mette à devenir un concurrent, en fait, un compétiteur avec vous.
J'ai pas d'exemple. Ça ne dit rien.
Ça veut dire qu'il y a un marché à prendre.
Non, mais tu vois... Et puis après, par exemple, si on parle des expositions, c'est vraiment notre façon de fonctionner. C'est beaucoup plus long. C'est des montants colossaux d'investissement. C'est des licences. C'est parfois des expositions qui existent et qui ont été mises en place dans tel ou tel pays.
Donc c'est vraiment un autre métier.
Ouais, c'est un autre métier et qui nécessite des collaborations. Il faut des gros espaces. C'est un autre univers. Mmh. Pour le coup, que moi je maîtrise pas du tout, puisque ce n'est pas du tout mon périmètre. Ouais, donc je vois ça vraiment de loin, mais je trouve ça assez passionnant.
Alors synergie. Des concerts dans des salons d'exposition.
En vrai, il y a des trucs à travailler, j'en suis sûr.
Bien sûr.
Toi Simon, la diversification, vous l'appliquez quand même aussi un peu avec le comics,
etc. Vraiment à dose homéopathique.
Ah ouais. pas autant, donc, en intro je disais à peu près.
Mais en vrai, à chaque fois qu'on a fait des tentatives comme ça, ça m'a rappelé à quel point moi j'aimais la musique. et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une croissance qui est assez importante depuis quelques années, on s'est vachement reconcentré sur la musique. Et même des fois, on est sollicité pour éventuellement réfléchir à rentrer dans un festival ou une salle. Et c'est vrai qu'on est déjà très, très pris par les projets existants et que les journées ne faisant que 24 heures. On a vraiment décidé de rester concentré rester focus sur notre business de cœur, qui est vraiment la musique actuelle et faire des concerts, fabriquer des concerts et mettre en place des tournées.
Jamais il y a cette idée de marché potentiel à développer, tu vois, pour équilibrer encore plus les comptes, voir, se dire, la musique, ça se passe bien, mais pour assurer l'avenir, il y a peut-être d'autres domaines, tu vois, où on peut faire de l'argent.
Devenir un bar. C'est
ça qui était un peu effrayant quand on a été arrêté par le Covid aussi, qu'on pouvait plus... Moi, je me suis dit... Enfin, j'ai réalisé à quel point j'aimais mon métier. Et à quel point j'aurais du mal à envisager de faire autre chose, quoi. Tu vois, donc quand t'es contraint, que tu peux plus le faire, ou que quand t'essayes un micro pas de côté en parallèle de ce que tu fais déjà, moi ça m'a toujours ramené à ça, quoi. Donc voilà. Et puis il y a un truc, c'est qu'on vit pas dans une économie de rente dans le métier du spectacle. On n'est pas assis sur un bac catalogue qui va entre guillemets cracher tout seul pendant quelques mois ou quelques années, tu vois.
Bah comme d'autres qui eux peuvent faire ça.
Mais respect à eux, et c'est génial. Et quand ils ont réussi à constituer un catalogue qui leur permet aussi d'avoir de la sérénité, tout ça. C'est chez nous, on remet notre titre en jeu chaque année. Tu vois, c'est une tournée, quand elle est finie. Ouais. Il faut en permanence se renouveler. C'est vrai que on a un peu plus de visibilité, je trouve, que avant, parce que depuis le Covid, justement, il y a eu un phénomène où on a dû mettre en place les tournées vachement plus en amont qu'avant. Donc, c'est vrai que maintenant, on construit les tournées un an et demi, deux ans avant parfois. Donc, on a plus de visibilité. Tu vois, moi, par exemple, aujourd'hui, je suis déjà capable de te dire à peu près de quoi sera fait l'année 2027 chez nous.
Ah ouais.
Je sais déjà qui va tourner, combien de concerts on va faire à la.
Ouais, à peu près.
Tu vois, la photo, elle est déjà assez précise. Tu m'aurais posé la question en 2017, au même moment de l'année. années, 2018, j'étais incapable de te développer la photo, quoi. Là, la photo, elle est quasiment développée, tu vois. Donc, on a un peu plus de visibilité qu'avant, je trouve. Mais malgré tout, on est en permanence, tu vois, sur le qui-vive.
Puis t'es jamais à l'abri d'un report d'album ou d'un artiste qui, finalement, n'a pas fini d'écrire au bon moment. Enfin, voilà,
les fameux aléas du direct. Voilà,
les aléas, donc... mais effectivement, ça reste à la marge. Et comme tu le dis, les photographies, les années, elles s'écrivent beaucoup plus tôt. Ce qui permet, c'est un peu plus rassurant aussi, en fait. Et puis ça permet de projeter. Ouais,
c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on a évoqué avec des artistes aussi, parce que c'est pas forcément dans la tête du public de se dire que, bah, au moment où la tournée est annoncée, l'album est même pas fait. Et que nous, généralement, en tant que grand public, tu te dis, bon, bah oui, la tournée, c'est que l'album, machin. Mais en fait, comme vous êtes tellement dans l'anticipation, la préparation, ça prend du temps. D'ailleurs, en moyenne, une tournée, ça se monte quoi? C'est un an avant, 6 mois avant? C'est quoi le...
Ça dépend les salles aussi, en fait. Les tournées Zénith, tu les montes, tes plannings Zénith, ils sont montés. Moi, certains, sur de 28, c'est déjà presque monté, par exemple.
Ah ouais, Vous êtes déjà des Zénith calés en 2028
déjà
dans
options,
deux
par
ans
exemple, ouais.
Et l'artiste, lui, il a même pas d'album encore. Parce que l'intérêt, c'est pas de mettre une tournée 2 ans après la sortie de l'album. J'imagine que ça n'a aucun sens.
Non. Après, tu sais qu'il y a des titres, c'est écrit. Et puis après, des artistes, par exemple, qui aiment bien se faire un peu plus rare. Donc, tu vois, c'est-à-dire que c'est écrit ou c'est enregistré, mais il y a besoin de souffler, de prendre du temps, de se ressourcer, de réfléchir à comment, pourquoi se laisser le temps de potentiellement réécouter les titres et se dire, en fait, celui-là, j'ai moins envie, j'en écris d'autres entre-temps. En tout cas, de pas être dans cette course de une tournée tous les ans, mais de pouvoir laisser un peu de respiration.
Mais donc là, quand tu bookes une tournée de Zénith pour 2028, en fait, l'artiste, il n'est pas encore impliqué dans la réalisation de cette tournée. C'est juste pas à ce moment-là qu'on le sollicite. Là, on est juste dans de l'administratif pur, quoi.
Il a adhéré à la
stratégie. Oui, bien sûr.
Mais t'as pas eu le temps de te poser la question de à quoi ressemblera le spectacle. Ouais. Et c'est pas grave, c'est beaucoup trop tôt de toute manière.
Donc cette partie-là de mise en place, de définition du spectacle, en fait, ça va intervenir combien de temps, en moyenne, encore une fois, je sais que chaque truc est différent, mais en moyenne, combien de temps avant la première date? On est dans l'ordre de 6 mois avant, 1 an avant?
Ça dépend. Ouais, pareil, ça dépend de la taille de la tournée, de la taille des salles.
Ça peut être à l'arrache, genre 1 mois avant, on n'a pas encore vraiment.
Ah, là, si. 1 mois avant, tu es dans une sacrée galère.
Ça, on n'aime pas trop.
Ouais,
si c'est du piano, piano-voix, guitare-voix, bon, il n'y a pas trop de 30 000 trucs.
Le truc qui est méga confort, c'est de commencer à faire les premiers rendez-vous de créa 1 an avant la première date, quoi. Okay. Voilà, c'est génial. Après, ça serait mentir de dire que ça se passe toujours comme ça. Des fois, c'est un peu plus la minutes, tu vois, mais le plus t'es en amont, le mieux c'est, pour tout, en vrai.
Vous avez indiqué qu'il y a eu une évolution, notamment sur le fait de beaucoup anticiper les dates. Autre évolution, et peut-être que d'ailleurs ce sera le dernier point dont on parlera, parce que ça fait quasiment 2 heures. Je commence à avoir une bonne vision du métier, je suis content, enfin, je comprends beaucoup plus de choses. C'est la question des évolutions sociales, économiques, écologiques. Avec le temps, évidemment, on a un regard qui change. Et notamment, on sait évidemment que l'impact environnemental du spectacle vivant, notamment quand c'est des gros artistes avec des grosses tournées, des gros festivals, avec des jauges monstrueuses, etc., ça fait beaucoup de voyages, beaucoup de matériel, beaucoup de transit, beaucoup de transport aussi du public, parce qu'il y a évidemment le transport des artistes, mais aussi le transport du public. De quelle manière, peut-être Alice, tu peux commencer chez Caramba, vous engager, de quelle manière vous emparer de ces questions?
Alors, on s'en empare par rapport aux propositions de par exemple, de déplacements qu'on peut faire. On va essayer, effectivement, de favoriser, comme tu disais, le transport décarboné. Donc, on va parler notamment du train.
Pour les artistes, pour le public,
Pour le coup, là, c'est vraiment, je parle le côté artiste, okay, et équipe artistique. Après, nous, en tant que producteurs, s'emparer du sujet du public, c'est plus compliqué. En tout cas, on peut peut le mettre en place quand on est producteur, c'est-à-dire que potentiellement quand on peut faire une tournée de Zénith, etc. En tout cas, réfléchir à est-ce qu'on met en place une plateforme où les gens peuvent se converser, se covoiturer, etc. Donc ça fait partie des réflexions, par exemple. Mais sinon, bah, comme on employait cet terme-là tout à l'heure, quand un artiste est programmé en session dans telle salle, en fait, nous, on n'a pas vraiment voix au chapitre, la manière dont le public va se déplacer pour arriver à ce point. Donc nous, en tout cas, sur tout ce qui est création, ça va être sur les matières, ça va être sur le transport. Est-ce qu'on peut réutiliser, par exemple, on sait que sur tel projet, il y avait un cyclo qui était de X mètres sur X mètres, il y a un autre projet qui a besoin d'un cyclo également, alors que la tournée est terminée. Voilà, est-ce qu'on peut réutiliser ?
C'est-à-dire mutualiser aussi, par exemple,
du matériel ? Par exemple, ça peut être ce type de réflexion.
C'est-à-dire que
sur les ordinateurs, sur les achats de matériel aussi, ordinateurs, cartes son, essayer d'avoir, en tout cas, du turnover, qu'on puisse réutiliser.
Pas racheter à chaque fois.
Exactement.
Est-ce que ça peut aller aussi loin ? Après, tu nous diras, Simon, pour toi. Que par exemple, bon, voilà, on travaille avec deux artistes qui ont à peu près la même échelle, à peu près les mêmes esthétiques et les mêmes besoins de matériel.
Tournée conjointe.
Et ben, on va peut-être pas à ce point, mais on va faire en sorte qu'ils fassent à peu près le même circuit pour mutualiser du matériel, par exemple. C'est envisageable ? Non, pas. Je prends un exemple comme ça.
Ouais, mais... bien sûr. La question s'est pas posée et je pense que ce sera. Enfin, de toute façon, ce n'est pas possible parce que. Enfin, en tout cas, c'est pas possible. Il faudrait le poser, le réfléchir. Là, je te réponds un peu comme ça. Imaginons que des artistes fassent le même circuit. Quand l'artiste A va faire un Bordeaux-Toulouse, l'artiste B va faire, Montpellier-Marseille. Et puis la semaine d'après, c'est l'inverse. Donc, de toute façon, tu n'as pas de possibilité de mutualisation. La mutualisation, elle est possible quand les projets sont terminés et puis que ça a du sens. L'idée, c'est pas de copier, c'est qu'à un moment donné, de se dire, bah voilà, nous, on a acheté telle typologie de matériel sur telle tournée, est-ce qu'il est encore viable ? Est-ce que ça tourne encore ? Oui, non. Est-ce que le matériel est réutilisable ? Est-ce que c'est ce dont a besoin l'artiste ? Est-ce que ce sont les demandes techniques ? Et si oui, voilà, essayer au mieux, en tout cas, sur des petits endroits comme ça, par exemple. Mais après, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, il y a Matrice, mais qui a un programme qui a une petite année, c'est ça ? À peu près, sur lesquels il y a ce type de réflexion et où à un moment, j'imagine qu'il y aura une charte, en tout cas une proposition de charte avec des points évoqués. Peut-être tu peux expliquer un petit peu plus ce Matrice, mais j'ai l'impression que c'est vous analysez des tournées, c'est ça sur,
Ouais, pour revenir 3 secondes à W Spectacle, juste nous, en fait, il y a quelques années, mais je pense que vous aviez vu pareil chez Caramba, chez tous nos consoeurs et nos confrères, mais il y a eu une première vague de bonnes intentions. Où, tu vois, par exemple, on a essayé de bannir le plastique sur le tournée, donc ouais, on a fabriqué des gourdes pour nos artistes, pour nos techniciens, pour nos musiciens. On a essayé de généraliser les caterings végétariens. On a essayé sur des petites choses comme ça. Et puis après, bah, une fois qu'on avait fait ça, tu vois, genre, le quotidien reprend son... le pas. Et là, avec Matrice, le truc qui est vraiment génial, c'est déjà d'aménager, de se forcer, entre guillemets, à aménager du temps pour en discuter, pour réfléchir et tout ça, parce qu'on est tous pris par le quotidien. Donc là, on a régulièrement des sessions de 2 heures, de 3 heures, où on se voit, on parle, on essaie de... Et c'est en parlant qu'il y a des idées qui viennent aussi, tu vois. Et donc, il y a eu toute une phase d'observation, en fait, d'analyse, de tournée, sur des catégories différentes d'artistes plus ou moins gros, donc de lieux plus ou moins gros. On en a parlé, les clubs, les centres culturels, les SMAC, les Zénith, les arénas, les stades et tout ça. En gros, du petit club de 200 au Stade de France, tu vois. Et de l'observation de ces données sont arrivés des résultats qui nous permettent, en fait, de concevoir différemment des tournées tests qui auront lieu l'année prochaine, dont la conception a commencé sur un certain nombre de tournées tests, il y en a 4, donc plus ou moins grandes, sur lequel on va changer notre façon de faire. Voilà. Nous, on a un projet, un artiste qui s'appelle Chaco, qui est dans la catégorie IN, donc le plus petit des artistes en termes de taille, en termes de tournée, donc il va faire plutôt des clubs. Donc on s'est dit, par exemple, qu'on allait uniquement sourcer des lieux qui vont être accessibles en train. on va avoir tout un dialogue avec le promoteur local qui nous organise la date, de dire ok, on veut que tout soit fait avec du local sur cette date, c'est-à-dire le catering des produits locaux, ton équipe technique, d'habitude t'as l'habitude de faire bosser des gens, t'as des gens qui habitent à 50 bornes, t'as quelqu'un qui habite à 3 km qui vient en vélo, ce jour-là c'est la personne qui... tout un tas de trucs, si à Modène tu dois nous mettre un VTC pour faire un transfert parce qu'on n'a pas le choix, t'en prends un électrique. Alors tout est questionnable après dans le truc, mais on va essayer de faire des choses comme ça.
Et donc ça a un impact sur la forme de la tournée en fait.
Et ça va nous forcer, entre guillemets, nous forcer à faire des choses un peu différemment. Mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres trucs. Il y a la communication aussi. Alice, tout à l'heure, tu parlais de la mobilité des publics. C'est vrai que nous, ce n'est pas trop notre endroit, la mobilité du public, parce qu'on n'est pas festival, on n'est pas salle. Nous, notre endroit, c'est la mobilité de l'équipe de tournée. Donc la mobilité des publics, c'est encore autre chose. Mais le simple fait de communiquer au public que viens voir cet artiste dont la tournée a un impact environnemental hyper bas. Et en plus, il se trouve que dans la salle dans laquelle il joue, tu peux venir en transport en commun, tu peux venir en vélo, c'est facile. C'est un alibi de communication aussi. Donc c'est un co-bénéfice, tu vois.
C'est un argument de vente, en projet.
Et puis un autre truc, c'est les artistes en développement. C'est d'essayer aussi, dès le début, et c'est peut-être là où c'est le plus facile, c'est d'avoir ces discussions et de les inciter à suivre des propositions qui vont leur permettre de réduire l'impact environnemental. Et à un moment donné, il y a une responsabilité de l'artiste sur un choix de scénographie. Ta scéno, est-ce qu'elle tient dans la remorque du bus ou est-ce qu'il faut deux semi-remorques à côté? Parce que si elle tient dans les deux semi-remorques à côté, j'ai pas besoin de te faire un dessin sur l'impact environnemental de ta tournée. Et on manque encore d'artistes cool, hype, prescripteurs qui vont être interviewés sur Combiné, sur Brut, sur tout ce que vous voulez, qui vont dire voilà, moi pour ma tournée, j'ai fait ce choix-là. Et ça va permettre aussi d'influencer toute une génération d'artistes. Et on l'a pas encore eu, cet artiste. Et les artistes qu'on a eu qui ont fait des trucs, mais c'est genre mondialement connu, et donc on sait que tourner c'est mal pour la planète, donc pour le prochain album on va pas faire de tournée.
Est-ce que faire un Coldplay ou des choses comme ça?
Alors ils ont fait des trucs qui étaient intéressants aussi, Coldplay, mais sur des très gros trucs. Puis nous, les très gros trucs, c'est pas nos refs, les très gros trucs, tu vois. Chez Live Nation, chez AG, ils ont plein de trucs comme ça, ils sont en train de réfléchir sur des trucs et c'est super, mais nous, à notre endroit, on a besoin d'artistes à taille un peu plus humaine,
qui aient les bons réflexes,
plus local, mais qui, tu vois, et qui joignent aussi l'action à la parole, quoi.
Mais surtout,
comme Terre Noire, par exemple.
Absolument, et en plus avec une dimension même sociale, au-delà de l'aspect environnemental, on en parlait juste après aussi, cet aspect social, je pense, c'est important. Parce que l'impact du transport, des artistes, des équipes, etc., il n'est jamais négligeable. On sait qu'effectivement, le gros, c'est quand même les publics. Enfin, à ma connaissance, pour avoir un peu regardé, m'être un peu intéressé au sujet, c'est évidemment le fait de faire venir des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes en transport. Effectivement, si rien que ça, déjà, tu limites. Par exemple, tu mets du poulet au lieu du bœuf, voire tu ne mets pas du tout de viande. Il y a tellement de gens qui vont consommer, etc., que ça change aussi beaucoup les choses, etc. Et en fait, globalement, je crois qu'il faut même plus réfléchir seulement en quel est l'impact direct, mais en philosophie, en quel est l'esprit général pour que tout le monde se mette sur la même page. Parce que tu peux pas ensuite être exigeant si toi-même, tu vois, t'appliques pas les trucs, etc. Donc,
Et c'est en train de changer. Il y a plein de festivals qui passent en full VG. Surtout les éco-cups, c'est un bouleversement par rapport à il y a 15 ans.
Mais en même temps, le
taf est encore gros.
Et en même temps, à ma connaissance.
Le train est en marche.
Le train est en marche. En même temps, propre comme figuré.
À ma connaissance, il y a le problème des jauges qui est essentiel et qui, elle, n'est pas résolu. Parce qu'au contraire, on est plutôt. Je sais pas si ça a changé ces un ou deux dernières années, mais je sais qu'il y a encore peu de temps, on disait que c'est la course à l'armement pour tous les festivals qui veulent accueillir des grosses têtes d'affiches, faire venir beaucoup de monde parce que c'est plus rentable. Sauf qu'en fait, ça, c'est catastrophique, par exemple, d'un point de vue écologique.
Bien sûr.
Et économique. La course à l'armement a aussi produit des résultats catastrophiques. Il y a des festivals qui ont eu des difficultés et qui ont d'ailleurs réduit la jauge et tout ça.
Ou alors qui s'en sont pas encore remis, les prix. Parce qu'il y a une réalité aussi, c'est que les prix des places de concert est quand même assez... je parle même pas d'un Coachella où c'est inabordable pour le commun des mortels, mais... des concerts dans des salles moyennes à 50-60 euros, maintenant, c'est classique, tu vois.
Et ça peut être justement, pour terminer là, sur cet aspect peut-être plus social cette fois, à la fois dans le lien social que peut créer ces moments, etc., et puis aussi sur l'aspect économique, l'accessibilité, le prix, de la billetterie, parce qu'il y a aussi une part billetterie lorsque vous êtes producteur. Je ne sais pas comment vous fixez les prix. Est-ce que vous prenez en considération le fait qu'il faut quand même l'ouvrir à un public, il faut l'attirer, il faut aussi peut-être qu'il y ait des gens qui ont moins l'habitude, et on parle parfois du public éloigné. Je sais qu'il y a des... on espérait avoir avec nous quelqu'un de chez Wart, mais je sais que c'est des trucs, par exemple, qui peuvent travailler ça, vraiment. Il y a des boîtes, c'est un peu moins le cas, j'ai l'impression, chez W. Caramba, mais qui mettent en avant un engagement, un côté militant, vraiment.
Oui, une fois de plus, ça dépend aussi de l'artiste. Mmh. Tu vois, on parlait de Théa tout à l'heure. Elle a souhaité qu'on réserve un quota de sa billetterie à l'Olympia, vraiment pas cher pour des gens qui n'avaient pas de thunes, tu vois. Et on l'a fait, tu vois. Et c'est super de faire ça. Ensuite, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on en a vachement parlé. Créer un spectacle, ça coûte super cher. Donc à un moment donné, et on l'a dit, la rentabilité du secteur, elle est très faible. Donc nous, on ne peut pas se tromper dans le paramétrage du prix des billets. Il ne faut pas que ça soit trop cher, ni pas assez. Alors le truc qui est super sur les salles grandes, c'est que tu as des catégories différentes. Donc c'est là où il y en a pour toutes les bourses. Et c'est génial. Et systématiquement, tu vas voir que c'est les places les plus chères, les mieux placées, qui se vendent en premier.
Voilà. Ah ouais, ça c'est... J'aurais
toujours.
Pas...
Ouais. Enfin, je veux dire, c'est dans mais 99% c'est des cas. Et tu peux même te dire, à chaque fois, mais on aurait pu mettre encore plus cher, ça serait parti, tu vois. Donc, non, mais c'est vraiment, on parle sans filtre, hein, vraiment. Et c'est pas pour autant qu'on va, on va pas non plus... parce qu'à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait une légitimité à avoir un écart de prix entre une place qui est placée là et une qui est placée là, tu vois. Tu vas pas... Donc, il faut faire gaffe à ce qu'on fait. Il faut qu'il y ait quand même une cohérence. Mais ce qui est super dans des salles comme ça, c'est tu vois, même sur un Zénith ou sur un Bercy, tu vas avoir des places à sous les 40. Et puis, la place la plus chère, entre 70 et 80. Mais c'est hyper difficile parce que, comme on le disait aussi, on travaille par anticipation. Donc, quand tu... paramètre tes budgets un an et demi, deux ans avant qu'une date ait lieu. Tu sais pas s'il va y avoir une inflation, s'il va y avoir une nouvelle guerre, s'il va y avoir un nouveau truc et tout. Tu peux être battu à la fin, parce que ton prix, il a été fixé. Quoi.
Donc t'essayes. Le prix, tu le réajustes pas
Une
fois que c'est mis en vente, c'est difficile. Quoi. Ouais. Et souvent, on a tendance un peu à s'auto-flageller en disant « Ouais, attends, on a peur de monter les prix des billets. » Il y a un truc comme ça. C'est aussi un sujet... parfois un peu conflictuel avec les salles, les SMAC notamment, nous on en discute vachement. Et surtout quand il y a eu l'inflation en fait dans les dernières années. Moi je disais souvent, mais par quel miracle un bien culturel serait exempté d'inflation? Enfin, je veux dire, nous aussi en fait on a des coûts qui augmentent partout. On en a parlé, les salaires, le prix de l'essence, l'allocation, l'équipe technique et tout ça. Donc forcément, il faut qu'on l'impacte. Et quand tu regardes dans le sport ce que les gens sont prêts à mettre pour aller voir un match de foot, je veux dire, ça va en fait. Hein, tu vois, c'est à un moment donné. Et on n'est pas en train de parler de grosses têtes d'affiches internationales avec des places à 350 balles. Après, moi, la plupart de nos artistes qu'on produit, les places, elles vont de 25 à 80 euros. Hein,
Pour les matchs de foot, par exemple, certaines personnes critiquent justement la hausse des prix, notamment pour les gros clubs type PSG, etc. Parce qu'en fait, ça éloigne certains publics, historiques, fans, etc. Mais quoi, qui n'ont plus les moyens de le faire. Et tu changes le public aussi.
Mais dans la musique, je pense qu'il y a toujours ce prix accessible. Je pense qu'on a tous et toutes envie que un large public puisse avoir accès à l'artiste, au concert. En tout cas, nous, chez Caramba, mais je pense que c'est ce que vous pratiquez également, il y a toujours un prix plancher accessible qui est en rapport avec soit la typologie du public, soit en rapport avec la salle. Parce que voilà, c'est aussi un Olympia, on sait que les places les moins chères sont entre X et X. Voilà, donc on fait aussi notre analyse. Et puis on sait que... j'ai perdu mon idée.
Il y a un aspect, je veux bien ton avis, Alice, là-dessus. Daz citait le fait qu'on a reçu un groupe qui s'appelle Terre Noire. Ouais. Terre Noire, leur dernière tournée, ils se sont dit, bon, on a quand même l'impression qu'il y a une espèce d'aliénation autour de la tournée, où on va sur un territoire, on voit que dalle de ce territoire, on voit certainement pas les gens, on fait une date et puis on repart. Et eux, ils se sont dit, on va se fixer plusieurs jours sur place et on va aller faire un peu d'action sociale. On va aller voir dans un EHPAD, dans une école, rencontrer des publics, etc. pour qu'il y ait un vrai échange, quelque chose qui se passe. Est-ce que chez Caramba, enfin dans le milieu d'ailleurs de manière générale, est-ce qu'il y a des moments où on s'interroge sur la place des artistes sur des territoires lorsqu'ils débarquent, c'est pas uniquement, tu vois, genre on fait un concert, on se casse. Est-ce qu'il peut y avoir des réflexions de ce type-là ou pas?
Oui, il y a pu avoir ce type de réflexion. Je me souviens, ça date un peu d'un artiste qui voulait tenter de faire une tournée en vélo en Bretagne et de prendre le temps. Mais en fait, à monter, ça n'a pas été possible, par exemple.
Ah ouais.
Ouais.
Compliqué.
Pour quelle raison? Parce que
Ça coûte trop cher ou...
Pour différentes raisons, c'est-à-dire que c'est un temps donné. Donc en fait, soit en fait, si tu veux, c'est la velléité d'un artiste qui peut partir avec sa guitare, mais tu peux pas. Enfin, c'est compliqué de mobiliser une équipe et de le faire adhérer. Donc en fait, enfin, de les faire adhérer parce qu'ils ont tous leur vie, besoin de travailler, etc. Donc je pense que c'est des, ça peut être des.
Genre tout le monde devait être en vélo, y compris les.
Ah non, mais en fait, c'était l'idée, c'était de réfléchir à une tournée verte et de donc comment en tournée verte. Tu mobilises une équipe, mais même si c'est une petite équipe, comment c'est jouable. Même si seul l'artiste est en vélo,
Les mecs ils sont rincés quand ils arrivent.
Non, puis en fait tu dis pas, même si c'est l'envie de l'artiste par exemple, tu dis pas aux équipes techniques, bah, vous y allez en van, puis vous attendez deux jours, parce qu'en fait c'est du boulot en moins pour eux. Enfin, c'est plein de... Donc pour moi c'est possible, alors, je pense que c'est possible à monter, mais effectivement ça va être sur des projets acoustiques, avec une volonté de l'artiste.
Et de manière générale, chez Caramba, enfin, je sais pas, vous avez forcément conscience que la culture c'est pas un produit comme un autre. Vous êtes tous des passionnés de musique, j'imagine. Tu vois, est-ce que parfois vous interrogez sur la place de votre métier dans notre société ? Est-ce que vous cherchez à valoriser ? Tu vois ?
Oui, bien sûr, on cherche à la valoriser, et puis on a de la chance. Enfin, moi, je me considère extrêmement chanceuse de travailler dans la culture, d'accompagner des artistes, de mettre une pierre à l'édifice. On fait un peu rêver les gens, en fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi ça, c'est rassembler, fédérer et donner une petite once de lumière parfois dans des vies, dans des trajectoires. Donc ça, c'est hyper important. Et malgré tout, moi, j'essaye de relativiser et de prendre un peu de distance parce qu'on ne sauve pas des vies. Enfin, je veux dire, il y a quand même des métiers... non pas plus essentiel, mais en tout cas dont le cœur d'activité, voilà, c'est aussi le poumon de la société. La culture fait partie de ce poumon, mais peut-être sur un cercle le deuxième entre guillemets.
Je comprends ce que tu veux
et
dire.
Et ça revient un petit peu à ce qu'on disait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut que tous les publics puissent avoir accès, et donc il faut que nous on soit toujours dans cette réflexion d'accessibilité. Nous on travaille aussi parfois avec certaines assos où on réserve certains billets, on propose, on dit bah voilà, à Paris on va avoir tel et tel projet, on peut vous proposer tant de places gratuites. Enfin voilà, je pense qu'il y a aussi selon les structures, les artistes, des partenariats avec des assos qui sont faites. Nous on a une réflexion à un moment donné sur les caterings. Les caterings à Paris, bah souvent c'est de la nourriture qui peut se perdre. Qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on peut mettre en place ou pas un partenariat avec des sociétés ? Mais après, il y a toutes les normes sanitaires. Donc voilà, mais ça fait partie des réflexions qu'on peut avoir. Et après, les mises en place parfois sont beaucoup plus fastidieuses.
Simon, toi, sur ce volet plus social, de la place de votre métier, de... Voilà, de ce questionnement sur parfois, ouais, je parlais de l'aliénation, Terre Noire, c'était un terme qu'il pouvait utiliser, tu vois, sur ce côté, quel sens on met quand même, de débarquer dans un endroit, faire son truc, repartir tout de suite.
J'avoue qu'on a, enfin, peu de recul sur ce sujet. Là, nous, on a choisi de dégager du temps et de s'engager plutôt sur les sujets liés à l'impact environnemental. Terre Noire, ce qu'ils ont fait, c'est super, et je pense qu'ils ont été moteurs. Je suis pas sûr que ce soit leur partenaire qui l'aurait proposé. À mon avis, ils ont été moteurs,
par contre,
et ça sent.
Ils ont réussi à les convaincre, ils ont
carrément
accompagné.
Ils ont été super bien accompagnés, et franchement, c'est top. Ça reste rarissime, quand même. Si on, à l'échelle, je veux dire, moi, la plupart des artistes avec lesquels on bosse, ils sont dans une nécessité de réussir, de fédérer un public, de durer.
Oui, ils n'ont pas encore cette conscience de ces enjeux-là.
Enfin, ils peuvent en avoir conscience, mais ils ont mis des priorités ailleurs, quoi. Tu vois, c'est pour être tout à fait honnête, quoi.
Et toi, à ton échelle, sur l'aspect social, la place de ton métier,
Je rejoins Ali sur pas mal de trucs que t'as évoqués, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est le fait de créer des moments un peu privilégiés qui sont finalement les derniers moments un peu havre de paix dans nos vies digitalisées, quoi. Ce truc de cet instant de vérité, de gens qui se rassemblent ensemble et communion, qui vont vibrer, oui, de communion, de manière très organique, tu vois, avec juste un artiste pour eux le temps d'un soir comme ça. Il y a un truc un peu qui appartient presque un peu au monde d'avant, et qui est encore là, et qui est d'autant plus singulier que qu'on vit dans un, ouais, dans un monde où tout va très vite, tout va trop vite, le culte du digital, de l'écran, de tout ça. Donc là-dessus, il y a un truc qui est incroyable. Et en même temps, on ne sauve pas des vies. Et voilà, il faut aussi garder de la distance par rapport à tout ça, quoi.
Ouais, c'est intéressant quand même ce truc de se dire que finalement, ouais, quand tu regardes, la musique a considérablement évolué. Maintenant, tu peux faire de la musique tout seul, tu n'as plus besoin de musicien, tu n'as même plus besoin de connaître la musique. Et... Par contre, quand il faut la jouer en public, il n'y a pas 46 façons. Quoi.
La jouer ou l'incarner, quoi. Ouais. C'est un truc,
Une scène, amplifier un public, et voilà. Quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est la même... En fait, votre métier, c'est de produire les mêmes trucs qu'il y a depuis 50, 60, 100 ans, parfois.
Voire pas amplifier, tu sais quoi, je dis ça parce que hier, pour la première fois de ma vie, je suis allé à la Philharmonie, j'ai vu un concert de musique dite classique. Et bah, c'est un des trucs qui m'a le plus marqué, c'est comment tu te prends le son de manière différente, le jeu sur la dynamique, sur les volumes, vu que c'est uniquement acoustique et sans amplification, c'est hyper intéressant. C'est très différent d'un concert amplifié, mais hyper intéressant. Mais c'est un tout autre sujet.
Mais tu vois, pour rebondir sur ce que tu disais, tu as employé le mot sincérité à plusieurs reprises. Effectivement, dans le live, on est dans cette vérité, dans cet instant, et c'est vraiment ce qui crée la différence.
Y compris dans la fragilité, dans la vulnérabilité. Tu vois, c'est pas que de la puissance et de la maîtrise. Il y a un peu des accidents, il y a un peu des... C'est ça que les gens cherchent aussi.
C'est
quoi.
Souvent ce qu'ils retiennent d'ailleurs.
Ah ouais. Ouais. C'est ce que t'as pas quand tu vas voir Beyoncé, par exemple.
C'est vrai. Est-ce que t'as pas sur le disque aussi? Ouais, c'est clair. Pour vraiment terminer, après il y aura les recommandations, évidemment, mais chacun peut-être nous dire déjà qu'est-ce qui vous occupe le plus en ce moment, peut-être une forme d'actu, entre guillemets, une grosse tournée qui se prépare, j'en sais rien, pour donner envie à nos
auditeurs. C'est pas confidentiel, bien sûr.
C'est pas confidentiel. Et puis peut-être aussi vos souhaits pour les prochains mois, voire les prochaines années, dans une évolution du métier, ou un truc, que ce soit à votre échelle à vous, ou le métier de manière générale, quoi.
Ce qui nous occupe le plus chez W Spectacle aujourd'hui, c'est à la fois le présent et l'avenir.
Ouais.
On en parlait un petit peu tout à l'heure. Le printemps, enfin là, il y a une espèce de run mars-avril. Nous, on l'a carrément appelé March Madness chez nous pour rigoler.
Comme au basket.
Où il y a beaucoup de productions le soir à Paris puis en région. Et en même temps, on est en train de finir de construire l'année 2027. En tout cas, en ce qui concerne la tournée des salles. Et donc voilà, on est à cheval entre des trajectoires. Je pense à Suzanne, par exemple, qui va faire sa première tournée de Zénith. On a ouvert le premier Accor Arena de sa carrière et de la nôtre aussi par la même occasion. Donc ça, c'est chouette aussi.
C'est génial.
C'est grandir ensemble avec les projets. Et puis là, on a des retours. On a Pierre Demar qui revient avec une nouvelle tournée. Et on signe aussi en permanence des jeunes artistes. Là, on vient de signer un artiste qui s'appelle Ariane Bonzini aussi, qui est un ovni de plus dans l'écosystème, dans le paysage et chez nous, parce qu'on aime bien les ovnis.
Et qui travaille notamment avec Sassou, on connaît bien la bouclette.
Ouais, on en avait parlé. Ouais.
Donc voilà, on est hyper excités. Alors c'est super frustrant de citer que ces trois, parce qu'on a quand même une cinquantaine d'artistes sur la route et ils mériteraient tous d'être cités. Et je peux pas le faire parce que sinon ça va être très long. Mais non, et on est hyper excités et à fond par ce qui se passe, par le quotidien, l'avenir.
Et un souhait alors pour l'avenir, un truc, une évolution que tu aimerais voir dans ton métier?
Dans notre métier, j'aimerais bien qu'il y ait une sorte de réflexion sur justement la course à la grandeur, et notamment je pense au Céno, et tu vois, je pense à ces trucs de un peu le concours de celui qui a la plus grosse, entre guillemets, tu vois. J'aimerais bien aussi qu'il y ait des exemples un peu inverses de ça. Voilà, quand tu te retrouves sur des festivals d'été où il fait 40 à l'ombre et que toutes les affiches se pointent avec des lance-flammes et tu te dis à quel moment ça va s'arrêter, enfin tu vois, ce truc de course de grandeur et tout ça. Et je trouve qu'il y a il y a aussi parfois des contre-exemples. Je pense à Rosalia par exemple, dont tout le monde a parlé, mais c'est vrai que quelque part, même s'il y a énormément de moyens, il y a aussi des très bonnes idées qui reposent sur des choses peut-être un peu plus minimales. En tout cas, tu vois, il y a des fois, il y a des idées un peu iconiques comme ça qui reposent pas sur des millions d'écrans LED. Ça se joue ailleurs. Et ça, je trouve que c'est génial aussi, tu vois, d'avoir des contre-exemples comme ça. C'est possible aussi, tu vois, d'avoir des idées, en fait, plus que des moyens.
Mais il faut que ça soit quand même les gros qui montre la voie.
Mais c'est vrai qu'il y a une surenchère, une course dans l'électro, dans les musiques urbaines aussi, peut-être où c'est un peu plus exacerbé, quoi, le concours de celui qui a la plus grosse scéno, quoi. Et on en arrive à des à des trucs où en fait il y a des zéniths qui se montent pas parce que les scénos sont trop grosses.
Ouais, c'est clair.
C'est genre, et puis, enfin, moi j'aimerais pas être à la place des directeurs techniques de ces équipes de tournée ou même des festivals parce qu'à accueillir c'est trop de stress, c'est trop quoi. Je veux dire, quand tu vois les changements de plateau, tu vois, c'est beaucoup trop en fait. Et en vrai, revenons un peu quand même à l'essentiel, aux chansons. Et nous, on essaye aussi de réfléchir à ça dans les nouvelles scénos sur lesquelles on bosse. On n'est pas nécessairement sur des trucs aussi gros, et donc c'est peut-être plus facile aussi. Mais il y a toujours des moments où on peut intervenir et dire « Attends, est-ce que c'est vraiment au service des chansons, cette grandiloquence et ça ? Est-ce qu'il y a vraiment des idées, au final ?» Et souvent, les idées, elles tiennent dans des choses plus simples. Et alors, c'est vrai que quand tu as des contraintes aussi, tu vois, on demande à des scénographes de faire des miracles et de faire tenir des scénos dans des valises, tu vois, parce qu'il faut que ça rentre dans un bus ou dans un van. Et bien, des fois, dans les contraintes, naissent des idées incroyables.
Alice, les actus, un peu toi en tant que directrice booking, je crois que t'es vraiment peut-être booking de Caramba, un peu les grosses tournées à venir ou ce qui vous occupe
C'est pareil, c'est un peu délicat puisque
faire des choix.
Voilà, c'est ça, le choix cornélien.
T'es directement très impliqué toi, par exemple.
Oui, non, mais après c'est par exemple, il y a le retour de Grand Corps Malade, tu en parlais tout à l'heure, donc voilà, on est en train de réfléchir et de préparer le retour. On a Loïc Notet qui revient, il y a Ben PLG dans une autre esthétique qui va revenir également, et puis après il y a le développement de beaucoup d'artistes qui sont sur la route, comme Asfar Shamsi par exemple, avec un premier album qui va arriver. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment.
T'as dépassé ton quota.
Et sur le côté un peu une évolution que t'aimerais voir dans ton métier, un souhait pour le futur?
C'est un peu bête, mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, la question de l'écologie, de comment on construit, voilà, c'est un peu ce dont tu parlais. Alors, c'est un vrai questionnement auquel on est et auquel je suis assez sensible. Pour le futur, j'ai envie de dire que le public continue à venir, qu'il y a vraiment, on parlait de sincérité, voilà, je pense que en fait, ces moments de rassemblement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ça soit politiquement, dans tout, j'ai l'impression qu'on nous divise beaucoup, on essaye de, il faut être pour ou contre, aujourd'hui, beaucoup. Aujourd'hui, la musique reste un terrain de jeu où les gens peuvent être ensemble, et pour moi, c'est un petit peu ça aussi, ce qu'on peut défendre encore et toujours aujourd'hui dans à nos postes.
Très bien. Bon, merci beaucoup Alice Pourchet de chez Caramba, Simon Naudet de chez W Spectacle. C'était hyper intéressant.
Très instructif.
J'ai appris plein de trucs et franchement, c'était à peu près clair, je pense.
Ouais.
À peu près.
Ouais, c'est vrai.
Les
non,
auditeurs
c'est vrai.
Nous diront, dites-nous dans les commentaires, est-ce que c'était clair ou pas
moi,
du
j'ai
tout.
J'ai tout compris, moi, je comprends.
Ouais, à peu près aussi.
Je suis l'auditeur lambda, moi, donc si je comprends, c'est que tout le monde comprend.
On a donc cette fameuse tradition des recommandations pour terminer l'émission. Un morceau. Un nouveau classique ou un truc découvert récemment, un truc que vous avez envie de faire simplement écouter à nos auditeurs. On s'écoute une minute trente à peu près, un petit extrait. Est-ce que vous avez déjà une idée? Est-ce que vous voulez qu'on commence avec Daz Simon, je le vois.
Moi, je peux proposer quelque chose.
Ah ouais, t'as une idée? Allez, vas-y, on écoute. Vas-y,
mais
on
c'est coup de cœur
est-ce que tu veux,
spontané et totalement désintéressé. Je
c'est pas un artiste défendu par WSP.
Pas du tout, c'est chez un concurrent.
Ah.
Non, c'est une chanteuse qui s'appelle Clara Chimera. Qui sort pas mal de titres là récemment, et là pour le coup ça touche vraiment à ma zone de confort artistique. Je crois qu'elle jouait dans Agar avant.
Je vois bien, c'était voilà. Cool d'ailleurs.
Ouais, et tous ces derniers titres sortis sont merveilleux. Voilà,
il y en a un en particulier que t'aimes bien dont on pourrait écouter un extrait?
Ouais, alors.
Tu veux checker? Je
suis jamais très bon sur les titres, mais Angel Candles par exemple, qui est le premier titre, le titre le plus écouté sur les plateformes,
voilà,
que je trouve merveilleux.
On s'écoute ça alors, c'est parti. Skips go with my fat friends, light out the angel candles. Don't ask me why, I wrote some messages, so it becomes a ritual. Or you can lie. And if you think you can hide, well, the house is locked tonight. Flames going wild, all of them hollering, slowly being ashes. You ask me why, you ask me why, I ask Très cool ça, c'est ma vibe.
Sympathique.
C'est ma vibe. Ça me fait beaucoup penser à Crystal Castle. Je sais pas si tu vois ce.
Carrément.
Il y a un truc, tu vois, dans la saturation, comment c'est mixé, dans la face et tout, assez brut.
Sale, comme disent les jeunes.
Ouais, exactement. Cool. Est-ce que tu as une idée, Alice?
Ouais, j'ai une idée. Moi, je viens juste de découvrir un projet qui s'appelle Hot and Freddy.
Ok.
Alors, franchement, j'ai aucun titre parce que c'est vraiment une découverte là, très récente.
Alors, comment ça s'écrit?
Hot comme Hot, H-A-U-T-E, and okay. Freddy. Et ça va faire un Zeb de Belleville là, en mai. J'ai découvert ça. Et je sais pas, faut mettre peut-être le titre le plus écouté. Bah, mais j'ai vraiment pas de titre.
Il y a Shy Girl qui est vraiment le plus écouté.
Vas-y.
Au pire, si ça te plaît pas dès les premières secondes, tu nous dis arrêtez tout et on
en met. En fait, l'univers, c'est vraiment l'univers. J'ai écouté l'album. L'univers, il est vraiment cool. Il est vraiment intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner sur ça.
Trop bien. Je connaissais pas du tout. Écoutons Shy Girl, Hot and Freddy.
When you gonna run the whole wide world? I do recall there was madness in your eyes. Let it come out tonight. Let it come out tonight. Yeah, yeah.
En vrai, c'est hyper efficace.
Ouais, c'est hyper efficace. Ah, après, il y a un univers un peu burlesque, j'ai l'impression. Enfin, le live, le live a l'air assez ouf.
Petite vibes à la Kate Bush.
De fou, c'est exactement ce que j'allais dire. Mm. Complètement, elle a une voix trop bien.
Mm. Moins d'octave quand même.
Ouais, peut-être. Il faut voir sur d'autres morceaux, peut-être. Très surpris, qui
sait. C'est vrai.
Hot and Freddy, je ne connaissais absolument pas ça, alors qu'il y a déjà quasiment 1 million d'auditeurs mensuels sur Spotify, par exemple. Très bien. Daz.
Yes, alors. Dans le cadre de ma biennale, rappelez-vous quand même qu'avant c'était pas si pire.
Okay.
On va partir à Seattle avec donc un artiste que j'ai écouté en fait parce que j'arrivais en vélo et je suis arrivé sur ce morceau-là. C'est un artiste qui s'appelle Squeak Nutty Bug. C'est un rappeur de Seattle. Le morceau s'appelle I'll Get You High. H-Y pour High. I'll Get You High. Ça sample le Just the Two of Us de Grover Washington Jr. et Bill Withers, évidemment, parce que c'est sorti en 95 et tout le monde samplait ce morceau à ce moment-là. mais comme on est à Seattle, c'est la West Coast, du coup ça rajoute des synthés énervés là et ça passe bien.
Et ben écoute, c'est parti.
Allez.
you high off a trip. Dribble never slip. Blue loose khakis in my pokey pick grip. Floppy off the herbs, her world is flipped. Hooter after hooter of what this funky shit. Blessed with the funk, got a trunk of the green hip funk. Roll it up, punk, I never smoke junk. I'm real to the grill of my profile. I always pack steel in your grill if you buck wow. I roam the earth in my two fat humps. Scoping rumps with the troop. Man bumps in the trunk of the hoodie. Gee, can't you see I'm that nick with the trick? Kinda small, not big. When I blast, I'm direct. Them gaps in the sack with the endo. Take a ride back to my hood for some skins, bro. All about the endo. Trip when I flip 23rd is the lane. I get you high off this endo trip. I get you high. I get you high. I get you higher. I get you high.
Endo trip.
I get you higher. I get you high. I get you higher. I get you high.
Endo trip.
At the hill, getting lit, hitting skins like a home run. Sun mega buns on my Zax. I'll get with that. Jump off the pool to the fridge. Here I come, dripping sweat. I'm set for a tall glass of rum. The munchie, grab a bag of chicken, jump back on the pony, here I come. Pedro goes off, got the flex to my neck set. Get my ends on and jet back to the flat. Where you at? Rather rub your back, cooked in. I'm in damage in that back bone.
G-Funk.
Ouais, c'est G-Funk. Très estival, il fait beau, il faut en profiter.
Écoute, c'est très bien, c'est tout à fait ma vibe aussi.
Et alors toi, justement, du coup?
Eh bah, écoute, tu sais quoi, j'avais plein de trucs. J'ai pas un morceau qui est vraiment sorti du lot ces derniers temps.
Mais le truc que t'as passé là quand on faisait les
et
tests.
Bah, peut-être que je vais mettre ça parce que je l'écoute régulièrement et je crois que ça vous a plu. Donc,
ouais.
Il y a aussi un Danny Brown que j'ai bien kiffé.
Ah, Danny Brown.
Il y a un Red Hot aussi que je trouve cool. Un vieux Red Hot, c'est l'album qu'ils ont fait avec, avec George Clinton. Bon. Ouais. Mais on va mettre effectivement Kiefer.
Kiefer.
Producteur donc américain, je crois qu'il vit en Allemagne, qui est aussi entre jazz et hip-hop. Voilà, on est un peu dans la suite de, tu vois, les discussions qu'on avait avec Célassou et The Gallants, tu vois, de toute cette vibe-là. C'est hyper bien et le morceau s'appelle Superhero, Superhero, je sais pas comment faut le prononcer.
Superhero, je pense.
Bah, c'est parti.
Superhero.
C'est allemand.
Super.
Pas mal, hein.
Très sympa.
Il est bon. Je crois qu'il est claviériste, ce qui s'entend.
Il s'amuse un petit peu.
Voilà, c'est le côté jazz, tu vois. Mais ça va, ça reste raisonnable, accessible.
Ouais, c'est très sympathique.
Plaisant, smooth.
Ça donne envie quand même de se boire un petit whisky sec.
Ce qu'on va aller faire tout de suite.
Oui, exactement. Exactement.
Encore merci, Alice, Simon. C'était hyper intéressant.
Merci beaucoup.
J'espère que vous avez passé un bon moment aussi.
Ouais. J'ai tout compris.
Oui, merci à la bouclette pour la technique, évidemment.
Évidemment.
Iris, Flav, Sam.
Bien sûr. Merci à François pour le montage. Et merci, je ne doute pas que cette marque intervienne sur les tournées, peut-être, parce qu'ils ont du matériel.
Alors, Thomas, on a discuté rapidement avant. Vous nous avez dit,
Vous leur donnez beaucoup d'argent.
Littéralement.
Pour être partenaire.
Ouais, ouais.
En vrai, ouais, vous êtes amené à commander beaucoup de matériel, quoi.
Beaucoup.
Et chez Thomann, c'est assez énorme. En plus, sans la blague, ouais, ouais, c'est vraiment pour. Ouais. Sans, c'est marrant. Ouais.
Ok. Peut-être que c'est parce que c'est.
Le meilleur magasin. Peut-être. En tout cas, c'est celui qui soutient cette émission.
Oui, merci.
Et ils ont donc bon goût.
Oui, c'est vrai.
Tout comme vous, chers auditeurs, chers viewers sur YouTube, vous avez aussi bon goût. D'autant plus si vous êtes jusqu'à la fin. C'est que vous nous aimez, laissez un petit commentaire, une petite étoile sur
un petit pouce bleu
de podcast.
Si c'est encore
le pouce bleu,
la cloche, tapez la cloche, je sais rien.
Tout ce qui est faisable, faites-le.
Voilà.
Allez, dans la limite de la légalité.
Oui, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et on se retrouve de toute façon dans 15 jours. Vous pourrez à nouveau mettre des pouces, à nouveau des commentaires.
Des cloches.
Mais promis, vous apprendrez des trucs, c'est sûr. Il y aura un invité hyper intéressant, c'est sûr. On ne sait pas encore qui.
Oui, c'est ça aussi,
si,
c'est
en,
sûr.
En plus. Je crois que le prochain, on l'a.
Si, on l'a.
On l'a, hein, on l'a. À vérifier. Allez, je tease.
Vas-y.
Et une thématique qu'on n'a encore jamais abordée, on va parler de free party, on va parler des années 90, etc. Encore un sujet
passionnant. Je parlais d'égalité, bon, on n'y sera pas, mais...
Pas toujours, c'est vrai. À dans 15 jours.